We always thought alien life would come from the stars. But it came from deep beneath the Pacific.
What the hell is going on?
Les podcasts de Doc. Pantatus.net.
Fungloui, les poulpettes et les poulpes. Fungloui à vous, messieurs.
Oui.
Donc, nous voici réunis ce soir pour célébrer la... Non, je déconne. Nous sommes là pour le deuxième poolcast dédié à Mare des Masques, donc les campagnes alternatives que vous allez pouvoir jouer pendant les vacances, parce que, comme on a dit dans le premier, il y a du matos, du lourd. Et ce soir, pour vous mettre l'eau à la bouche, nous allons vous parler d'une grosse campagne dans les années 40. Nous allons vous parler d'une grosse campagne à notre époque. Nous allons vous parler d'une grosse campagne dans les années 30, hein, c'est ça, Sergissant ?
Peut-être entre début de la guerre.
Début de la guerre. Et nous finirons ou nous poursuivrons par une campagne, non pas Appel de Cthulhuesque, mais Trail of Cthulhuesque, n'est-ce pas, Desparade ?
Oh, que oui.
Car nous avons ce soir autour de notre table virtuelle Fox, Sergissant, Desparade et VirtuSep que vous n'entendez pas pour le moment, mais qui sera là pour faire, pour avoir le rôle, tenir le rôle de poil à gratter et du posage de questions dans les 20 minutes après les 10 minutes que chacun de nous aura pour défendre sa campagne. Donc nous allons tout de suite débuter, parce que là ce coup-ci je fais pas de test à la con avec Twitch ou de quoi que ce soit ce soir. Et donc, j'ai été l'heureux élu pour vous parler d'une campagne qui s'appelle La maison reste ouverte pendant les travaux, édité dans le Casus Belli. Donc c'est parti hein, pour mon chrono, il est 21h20. Une campagne, ce qu'on appelait dans Casus Belli, quand c'était le vrai Casus Belli, hein, pas les Casus Belli de maintenant, ou les intermédiaires, les trucs tout pourris, là. Le vrai Casus Belli... Quoi ?
Étienne ? Narrativiste.
Mais non, Stéphane Gallo n'est pas un narrativiste. Il fait de l'entertainment. Donc, Casus Belli, c'était l'époque où ils appelaient les grands scénarios des longs métrages. En réalité, l'opus central, là où il y a les scénarios, se séparait en scénarios d'un côté, petit scénario de 2-3-4 pages, et toute la moitié du livret, avec une inversion de tenage dans la main pour la couverture, où vous vous retrouviez avec une campagne qui, là, quand elle a été éditée sur TOC il y a quelques temps, elle fait 18 pages. Donc il faut savoir que j'en parle, mais je ne sais absolument pas si vous aurez l'énorme chance de l'avoir réédité dans ce que va sortir sans détour avec la compilation des meilleurs scénarios de Tristan Lhomme. J'espère qu'il l'a sélectionné. Ce qui est un peu dommage, c'est que peut-être qu'il a regardé dans les forums, mais qu'on n'a pas été consulté. S'il a été juste voir Cassius No, ça va être branlette d'intellectuel de gauche, mais sinon nous, c'est clair que la maison reste ouverte, je pense qu'on est tous d'accord, ça fait partie des musts. Je vais vous en parler, contrairement à d'habitude, pas parce que j'ai été gardien, mais parce que j'ai été joueur. Cette campagne est un petit bijou. Le coup de chance, c'est qu'il tombe pile poil. Nous sommes le 18 juin, pardon, putain, je me gourre en plus, quel con. Le 18 juin 2014. Et il y a 70 ans, c'était ça, non ? Attends, c'était le 18 juin 44, hein, c'est ça, ouais. Il y a 70 ans, je me trompe pas, hein, Fox ?
Si, je pense.
C'était pas en 44 ? L'appel du général ?
Débarquement, ou...
L'appel du général ?
Ouais, ça sera un peu avant quand même, puisque en 44, les Alliés avaient débarqué.
Ah merde.
C'était en 40.
Ah oui, putain, oui, je suis con. Oh putain, la honte. Donc comme vous voyez, vous pouvez tout à fait jouer cette campagne sans en étant nul en histoire. Et donc voilà, parce que cette campagne, la maison reste ouverte pendant les travaux, se déroule pendant l'occupation allemande, cette période faste où on a bien travaillé, on a bien marché au pas. Elle se déroule. Bien sûr, pour que ce soit intéressant, non pas dans les îles Galapagos ou sur l'île de Pâques, mais à Paris. Et pourquoi, il me reste 7 minutes, pourquoi cette campagne est absolument monumentale ? Car c'est un peu une campagne que je qualifierais à la terreur sur l'Orient Express ou quelque chose comme ça. C'est une campagne qui va avoir une montée en puissance évocatrice et, je dirais... une perte de pied dans la réalité tout à fait progressive. Parce qu'on va commencer par quelque chose de on ne peut plus concret. Attention, ça va spoiler, hein, comme d'habitude. En réalité, vous commencez par vous faire arrêter par la police allemande. Donc là, c'est déjà assez sympa. Moi, la scène a été assez immortelle parce qu'on essaie de s'échapper, puis on s'aperçoit qu'il n'y a plus de... Il n'y a pas trop d'issue. Le gardien a quand même tout le Reich à sa botte, c'est ce qu'elle le dit. Donc s'en sortir, c'est un peu dur. Mais pendant que vous êtes emmené, ou je crois que c'est pendant un transfert, en réalité, c'est pas pour vous précisément, mais votre convoi va être attaqué et vous allez pouvoir vous échapper. Alors en plus, je trouve que c'était très bien fait. Pour ceux qui connaissent pas les campagnes de Tristan L'Homme dans la version Crassus Belli, parce que je sais pas ce que donnera la nouvelle version, mais c'était des trucs où il fallait pas quand même pas mal bosser. C'est-à-dire qu'il vous donnait des pistes et tout, mais il fallait penser le truc derrière. Il y avait plein de pistes, mais il fallait travailler. Donc là, en réalité, la base c'est ça. C'est vous êtes arrêté, et pendant le temps, donc il va vous faire mijoter un peu en prison, et après le transfert, pendant le transfert, vous voulez vous échapper dans la France occupée. Et donc vous allez vous retrouver à vous planquer de planque en planque. Vous allez être recueilli par des, c'est pas des résistants, c'est une espèce de groupe. Enfin, tant bien que mal, vous allez essayer de fureter dans les rues de Paris pour vous en sortir. Donc il y a une grosse ambiance de trouille. Donc ça c'est très très sympa, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout libre de ses mouvements, qu'il faut aller chercher des tickets de rationnement. Qu'on peut pas se balader dans les rues comme ça, qu'on va de planque en planque, qu'on sait pas à qui faut faire confiance parce qu'on peut se faire trahir, des choses comme ça. Donc sur, vous avez toute cette base là, et sur cette base là se pose donc l'aventure qui en réalité va vous faire monter un peu en grade dans la résistance quelque part, et dans ses diverses facettes, notamment en France, puis en Angleterre et tout ça. Et ce qui est assez génial, c'est que vous allez être confronté à une pléthore de PNJ qui chacun ont un peu leurs épingles à tirer du jeu de cette guerre et de cette occupation. Certains plus ou moins honnêtes, certains plus ou moins pour les Français, et certains en même temps plus ou moins poulpiques. Donc ça, c'est ça qui est assez génial, c'est que le poulpe va pas du tout vous sauter au visage. Il va être là dès le début, mais de façon complètement insidieuse. Et c'est vraiment bien foutu parce que avec la pléthore de personnages, c'est très difficile parce que chacun cache un peu ce qu'il fait, du fait qu'on est sous l'occupation, machin, et qu'on sait pas qui faire confiance. Donc vous arrivez à voir clair dans le jeu des gens est très difficile. Et donc vous, en réalité, ça va tout de suite resserrer l'équipe. Moi je me rappelle, on avait été vraiment, on s'était serré les coudes, il n'y avait pas eu de séparation. Donc il y a le Paris outragé, non, il y a le Paris donc occupé. Alors il y a encore des divertissements, des choses comme ça, mais c'est très très particulier. Parce que vous êtes quand même toujours sur le qui-vive, vu que vous êtes échappé de base. Et donc il y a cette montée en puissance au niveau de l'espèce de groupuscule qui vous a recueilli, à moitié résistant. Et surtout, tout l'univers autour de vous va pas mal changer au fur et à mesure, notamment Paris, qui va être de plus en plus la proie, en plus de l'occupation nazie, va être de plus en plus la proie à des manifestations surnaturelles, toujours bien foutues. Ce qui va se passer, c'est que vous allez voir, il y a une galerie de PNJ qui sont absolument géniales. Je me rappelle, il y a une espèce de d'Indien, d'Hindou qui en quelque sorte, je sais plus trop, mais cartomancien, un truc comme ça, qui a un super rôle à jouer, qui fait des spectacles un peu bizarres. C'est truffé de petites pistes dans tous les sens, sans être, je dirais, un embroglio, un plat de spaghettis de fausses pistes. Mais c'est absolument génial. Donc, vous allez monter. L'ambiance va beaucoup monter à Paris, ça va devenir assez chargé. Et là, à ce moment-là, un dénouement va faire que finalement, vous allez un peu déclencher, pas un cataclysme, mais quelque chose qui va vous obliger à partir. Et vous allez fuir vers l'Angleterre. Et alors là, vous vous dites, bon, l'Angleterre, on va faire pareil et tout. Non, pas du tout. Parce que c'est l'Angleterre juste avant les bombardements de 41, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ce qui fait qu'en réalité vous allez aller en Angleterre, et comme vous êtes censé être monté en grade, vous allez rentrer dans le bureau S, et puis vous rapprocher des services secrets anglais. On va vous filer des missions, ça va monter au fur et à mesure, les missions vont devenir de plus en plus intéressantes, et toujours à mi-chemin entre le groupuscule dans lequel vous êtes, avec lequel vous avez travaillé à Paris, et le côté un peu poulpe, un peu énerbe, vous savez, l'espèce de groupe nazi là qui s'occupait de la recherche des reliques et tout ça. Donc il y a cette espèce de mélange, et surtout il y a des scènes absolument mémorables, dont celle dont je me rappelle, c'est une espèce de course-poursuite dans Londres bombardée, ce qui est absolument génial, parce que d'habitude on est en mode panique parce qu'on est poursuivi par des ghouls, par des sectateurs et tout. Là il y a ça, mais en plus on se prend des putains de bombes sur le coin de la tête, et là après c'est au gardien de doser, mais ça fait assez mal. Je me rappelle que nous on n'avait pas fini on avait fini un peu clopin-clopant. Après l'Angleterre, ça va se poursuivre en Europe de l'Est. Là ça devient ça demande plus de travail au maître, je trouve. Et alors je sais plus, parce que j'avais été joueur et j'ai pas tout relu, mais je sais que nous il y avait une partie où on était revenu à Paris. Et là, c'était absolument génial, parce que Paris, la montée en puissance de l'onirisme et des choses un peu fantastiques qu'on avait laissées en partant, en revenant, on s'était dit, bon, ça se trouve, ça s'arrêtait. Une grossière erreur, ça s'était décuplé, et Paris avait complètement muté. Enfin, c'était devenu une espèce de ville fantastique, avec où les créatures pouvaient, enfin, où certaines créatures pouvaient... quasiment vive à l'air libre, tout était un peu changé, l'ambiance était très lourde, on a l'impression que les rues tout le plan avait été un peu changé de Paris. Enfin, ça crée une ambiance absolument géniale. On est confronté à des créatures qu'on a très rarement vues, notamment ce qu'on appelle les blêmes. Enfin, c'est truffé de super CD, comme le sont la plupart du temps les scénarios tristes en homme. Donc, pour moi, cette campagne, vous voyez, c'est 18 pages. Bon, faut voir que derrière les 18 pages, déjà, c'est la mise en page de TOC, donc c'est assez aéré, mais derrière les 18 pages, il y a quand même pas mal de boulot, parce que je sais plus si on en a mis à dispo, mais il y a les aides de jeu et tout ça. Il n'y a pas énormément d'aides de jeu, c'est pas une campagne de grosse chronologie et de grosses aides de jeu, c'est plutôt une campagne de réflexion, d'interaction avec les gens avec qui vous allez vivre, hein, parce que c'est eux qui vous ont un peu recueilli quelque part. Et surtout, cette espèce de groupe que vous avez formé que les joueurs ont formé entre eux, et qui est obligatoire pour que ça fonctionne, parce que, ils vont tout de suite avoir l'impression que tout le monde entier est ligué contre eux. Mais cette montée en puissance du fantastique et tout est absolument géniale. Et au début, moi, j'étais un peu réticent sur le côté, ouais, historique, machin, l'occupation, etc. Et finalement, ça décuple le plaisir, parce qu'on en est toujours sur le qui-vive, quoi. Nous, le gardien, là, nous avait mis une pression de ouf. Et ce qui fait qu'on flippait, quoi. Mais on sortait pas, on sortait de nuit, on passait de chez Lulu, la Nantaise, à chez la Goulue, et puis après on allait chez Maurice, qui était un petit revendeur, machin, qui faisait du troc et tout. Enfin bon, on connaissait tout le quartier, c'était absolument génial. Donc moi, je vous conseille de la faire. Si vous l'aviez pas récupéré sur TOC, attendez que le musée de l'homme, l'apparition de Saint-Détour, sorte. J'espère qu'elle y sera. De toute façon, sur toi, que je vous donnerai dès que j'aurai d'autres infos en primeur, je vous les donnerai. Mais voilà, ça s'appelle donc La maison reste ouverte pendant les travaux, et contrairement à ce qui est marqué sur le truc que j'avais fait sur TOC, c'est pas pour les années 20, mais c'est pour 1940. Et en plus, oui, pour compléter, c'est une époque qui est très rarement utilisée. Messieurs, je crois que j'ai fait le tour de cette magnifique campagne grand écran long métrage. C'est donc à vous de me poser les questions, de m'emmerder et de me dire peut-être pourquoi jouer cette campagne. À vous.
Il y a combien de... Tu as fait ça en combien de scénarios, tu disais ?
Alors, en réalité, pour ce que je me rappelle, le chapitre... c'était encore l'époque où je jouais tous les lundis soirs de 8h à minuit. C'était des petites séances, mais on avait dû en faire... 4-5 à Paris, 3-4 à Londres, 16-20, séance de 4 heures.
Ouais, quand même.
Mais on avait joué à fond l'ambiance, quoi. Pas que du roleplay, pas que des trucs historiques, mais je veux dire, on faisait super gaffe, on calculait, mais c'était vraiment le fun qui naissait de cette situation, quoi. Mais c'est assez long, quand même. Parce que tu fais rien librement, si tu joues dans l'idée. D'autres questions ? Remarques ou autres ? Ah, je vous ai scotché, hein. Ils sont tous en train de la préparer. Hein.
Est-ce que tu as lu toi-même la campagne ?
Oui, je l'ai relu après.
Et du coup, par rapport à ce que tu as lu, quelle est la répartition, en termes de plaisir de jeu, entre le travail de ton meneur de jeu de l'époque et ce qui est déjà fourni dans la campagne ?
C'est du 80-20. Parce que mon meneur, il n'aime pas improviser. Et il aime bien que ce soit bien encadré. Donc je dirais qu'il a puisé 80% du truc dans la campagne et il a rajouté 20% autour parce que il voulait un peu il voulait étoffer certaines choses parce que voilà, c'est un scénar, ça se passe à Paris occupé, mais il n'y a pas de plan de Paris, il n'y a pas de dessin des maisons dans lesquelles on va parce qu'on va rester très longtemps dans une maison chez les gens qui nous recueillent. Il n'y a pas de portrait et tout, donc il y avait eu pas mal de boulot à côté. Et puis il aime bien peaufiner, donc je pense que c'était du 80-20. Mais c'est vrai que, comme très souvent, le souvenir qu'on en a en tant que joueur, après a posteriori avec un bon gardien, est beaucoup plus grand que celui qu'on l'a en le lisant, quoi. En le lisant, moi ça m'arrive très souvent de me dire bon, on va voir ce que ça donne. Et puis finalement c'est mortel. Mais sur le coup, en le lisant, je me dis bon, est-ce que ça va pas être chiant? Là, très honnêtement, en lisant, l'époque m'a encore branché, parce que je me suis rappelé des bombardements de Londres, et puis de notre course-poursuite au début du scénar, pour essayer de s'échapper. Mais il y a du boulot, ça c'est sûr.
Ouais, comme dans toute campagne, en fait. Mais ce que tu me dis, c'est qu'il y a quand même une excellente base dans le travail.
Ouais, Ben, c'est le travail de l'auteur. Voilà, c'est le défaut de ses qualités, c'est-à-dire que en réalité, il va vous finir un paragraphe en vous citant un personnage non joueur, et putain, vous, il vous faut une page pour faire un truc derrière dessus, parce que c'est mortel, il vous a donné trois pistes et vous avez envie de vous éclater, mais lui, il s'arrête à la fin du paragraphe, il passe à autre chose. Donc c'est à vous de développer si vous voulez faire quelque chose autour de ce PNJ-là. C'est vraiment les principes des... C'est beaucoup le principe des scénarios quand il y a de l'ancien casus, quoi, c'est-à-dire que on vous donnait une base sur laquelle vous pouvez broder des heures et des heures, mais il y avait du boulot, quoi. Toi, des sprites qui aiment bien improviser et puis un peu suivre tes joueurs, là, s'ils prennent à l'époque, s'ils prennent à l'ambiance, c'est du caviar, quoi. En plus, tu leur dis de regarder un petit Le jour le plus long, Paris brûle-t-il, des trucs comme ça, tous les films un peu... Bon, la septième compagnie, la grande vadrouille.
Le jeu qui était sorti il y a quelques années, qui s'appelait, je crois, Le Saboteur, non? Ça me rappelle.
Ouais, oh, génial. Un jeu PC qui était énorme.
Très, très bon.
Avec une bande originale absolument géniale. J'avais adoré ce jeu. J'avais fini. Ouais, c'est exactement ça.
Avant Saboteur.
Ouais, c'est exactement ça. Et alors, en plus, je dirais que c'est très à la mode, vu qu'il y a Arthur Cthulhu qui va sortir chez Sans Détour dans pas longtemps. Donc, là, l'intérêt, c'est que voilà, le scénario n'est pas manichéen. Vous ne luttez pas directement contre les nazis. C'est pas où on va casser du nazi et machin. C'est pas quand les aigles attaquent, quoi. Vous n'allez pas à l'assaut d'un nid d'aigle. C'est vraiment le côté vie à l'époque. Mais pour une fois, la vie à l'époque, moi qui suis pas très truc comme ça, vie de tous les jours, ou alors film français. Version la vie d'une vendeuse chez Carrefour qui refait les stands congelés, quoi. Là, c'est vraiment la vie du résistant, quoi. La vie du... Alors, attention, hein, c'est pas non plus papy fille de résistant. Enfin, je veux dire, vous n'allez pas faire sauter des convois et tout ça. Mais vous avez un vrai rôle à jouer, quoi. En plus de sauver vos miches. Avez-vous d'autres questions, messieurs? Dites-moi, alors, n'hésitez pas.
Je vais peut-être compléter parce que je l'ai joué.
Super.
Ouais. Donc il y a quelques années. Moi je pense que alors, c'est une super campagne effectivement. Il faut la bosser un peu parce que comme tu le disais, les scénarios de casus étaient souvent assez légers, mais c'était aussi leur force, c'est-à-dire qu'en quelques pages, tu arrivais à savoir si t'avais envie de jouer ou pas. Et ensuite à charge à toi de bosser dessus. Par contre, en particulier tout l'acte 1 qui se déroule à Paris, si t'as pas des joueurs proactifs. Moi, c'était le souvenir que j'en avais à la relecture, une fois que je l'avais joué. J'avais eu des joueurs proactifs, donc j'avais cette chance. Franchement, le premier acte, si je me rappelle bien, bon, ça peut être assez pénible. Parce que...
Il ne
se passe pas grand-chose. C'est vraiment l'ensemble de leurs actions qui vont faire que cet acte va passer soit très vite, si vraiment ils ne le vivent pas, et qu'ils restent à se planquer, effectivement... au niveau du bordel, ou s'ils commencent vraiment à essayer d'imaginer tout ce qu'ils peuvent faire pour s'en sortir, là ça devient vraiment grandiose.
Hein. T'as raison, c'est pas forcément pour des joueurs, c'est pas débutant ou pas débutant, mais t'as raison, si vous avez un groupe un peu qu'il faut toujours guider ou un peu apathique, ça va être super difficile parce que ils vont pas. En réalité, t'as raison, dans le premier acte, il faut générer il faut générer vraiment de l'activité et se prendre en main en tant que joueur. Mais nous, on était à fond, quoi. C'est-à-dire que nous, quand il nous a décrit et tout, et puis on se baladait, on tentait des trucs la nuit, des trucs, c'était un peu n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'il t'a raison. Un des défauts, ça pourrait être que l'acte 1, en réalité, c'est un peu un bac à sable. C'est-à-dire que on t'a placé à un endroit, dans une situation donnée, les événements vont pas forcément te tomber sur le coin du bec. Qu'est-ce que tu fais, très juste?
Donc en fait, il faut des bons joueurs et un bon gardien, parce que...
Je pense que, ouais.
En 18 pages, tenir à 20 séances...
Alors, plus il y a un bon gardien, je dirais un gardien consciencieux qui va préparer sa... qui va vraiment bien préparer sa campagne. Parce que bon, pas bon, c'est un peu difficile à déterminer, mais il faut vraiment qu'il l'ait bossé. Parce que il faut que les PNJ soient crédibles, parce que notamment le premier acte, on va y être confronté tout le temps, et puis on va interagir matin, midi et soir. Et il faut vraiment qu'il ait bien préparé, ou alors que ce soit un grand ponte de l'improvisation et qu'il arrive à vous faire vivre des choses comme ça. Mais ça demande de la préparation et ça demande des joueurs qui attendent pas la béquille, quoi.
Ouais, et puis qui maîtrise, le gardien doit maîtriser quand même un minimum l'époque. En particulier, toujours pareil sur la partie parisienne, je pense qu'il faut au moins saisir l'esprit de ce que pouvait être cette période juste après effectivement la défaite française, avec d'un côté déjà des gens totalement effondrés par ce qui pouvait s'être passé, la chute de ce qui était censée être la meilleure armée du monde, quoi. Et puis déjà des gens qui, en fonction de leur sensibilité, pouvaient voir ce qu'ils pouvaient gagner, tu l'as dit, avec la collaboration, etc., qui commence à arriver. Et je pense qu'il faut vraiment, il faut saisir cet esprit, parce que le pari de l'acte 1, il est vraiment hyper important à faire vivre. Et ça aussi, ça peut être assez compliqué pour le gardien. Donc ouais, il faut être un minimum expérimenté, je pense.
Ouais, t'as raison. D'autres questions, remarques, messieurs? Donc ce que j'avais dit, c'est le côté poulpique, c'est pas des trucs qu'on connaît. Donc ça, c'est sympa. C'est des trucs auxquels on est confronté, mais... Et en plus, j'ai oublié d'en parler, mais on pourra pas les affronter seuls avec ses propres moyens. Il va falloir, c'est le cas de le dire, collaborer. Il va falloir travailler avec les PNJ pour que ça fonctionne. Tout seul, on s'en sortira pas.
Ça a l'air assez intéressant d'avoir, pour une fois, il ne ressemble pas.
Attends, s'agissant, tu peux recommencer, ça a été un peu coupé.
Excuse-moi, je disais, ça peut être intéressant justement pour le coup d'avoir pour une fois du mythe qui ne ressemble pas.
Oui, alors c'est... Et je pense que c'est un peu le dénominateur commun de toutes les campagnes dont on va parler ce soir. C'est que c'est pas du classique. Voilà, c'est pas du... ah tiens, c'est lui le spectateur, je vais le suivre. Ah ouais, dans 3 jours, c'est la pleine lune, il a sa cérémonie. Ok, c'est quoi? C'est comme Grand Ancien, du feu. Ok, c'est à quoi? C'est Mère de Wendigo, c'est machin, c'est Astur. Ah non, c'est Astur. Bon, bah c'est bon. Non, là, c'est pas ça. Là, c'est... En plus, moi, je me rappelle, comme il nous avait vachement mis la pression de mettre avec les nazis, au début, on s'était dit, putain, ça se trouve, il va falloir infiltrer les nazis et tout. Ils sont peut-être en train de retrouver une relique, quoi. On avait monté des plans, mais de folie. Bon, c'était complètement faux, mais c'était assez marrant, quoi. C'était dit, ah, ça se trouve, ça va être à la Indiana Jones et tout ça. Et non, pas du tout. Bon, bah écoutez, messieurs, si vous n'avez pas d'autres questions, non, on va passer à la suivante, hein, on va pas s'éterniser. Donc, comme l'autre fois, quand on avait bien rigolé, si vous deviez une note de 1 à 5, VirtuaSeb, t'as pas de questions?
Excuse-moi, non, pas pour le moment. Enfin, parce que j'ai pas pu tout à fait écouter la première partie de ton résumé.
Ah bah super.
mais la deuxième partie, en tous les cas, de ce que j'ai écouté, m'a bien donné envie en tous les cas. Alors c'est pour ça que je n'avais pas posé de questions pour cette partie-là.
Alors pour les autres, de 1 à 5, dans la potentielle envie que je vous ai donnée de faire jouer cette campagne, Desperate.
Je mettrais bien 4 pour le contexte et
ouais.
Pour l'exotisme.
D'accord, pour le côté, ouais, on n'en a pas fait des comme ça. D'accord, Desprite, Sergissant.
Je mettrais bien 4 pour le contexte.
Mais pas pour le contexte. Sergissant, tu peux dire ?
Moi, c'est, en tant que joueur, je mettrais 4 parce qu'effectivement, ouais, ça peut être sympa d'avoir une campagne pour le coup. On va me changer les traditionnelles campagnes que nous. En tant qu'MJ, Je mettrais peut-être un petit peu moins parce que ouais, y a énormément de boulot et il faut le dire, je suis pas un MJ. Je bosse mes scénars le midi pour le soir.
Voilà, mais alors je te dirais qu'il y aura peut-être dans la prochaine version qui sortira chez Sans Détour, il y aura beaucoup, peut-être beaucoup plus de CSR dedans. Il y aura sans doute beaucoup plus de matos et ça sera sans doute étoffé, mais je vois ce que tu veux dire, ouais.
Et je pense que j'irai voir cette version Sans Détour si jamais c'est réédité.
Alors pour le coup, je vais me prononcer pour aller dans le sens un petit peu devant. Ouais, je pense que si c'est réédité, ça sera beaucoup plus riche parce que enfin moi j'ai l'autre manuel de scénario de Tristan Lhomme qui est sorti sur par Sans Détour et c'est au niveau détail et tout ça, c'est très très riche quoi.
De ton côté, Fox?
Ah moi clairement, ouais, elle vaut bien 4.
Ouais. Ouais, mais c'est vrai que en plus toi tu l'as fait jouer. Bah surtout, il y a vraiment, je sais pas si t'as mis beaucoup de séances, mais pour 18 pages, il y a vraiment du matos derrière, quoi. T'as vraiment de quoi jouer.
Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'elle est énorme. Hein.
Bon, messieurs, nous allons passer à la campagne suivante. Qui veut se disparaître? Pourquoi t'es doublé, hein? Faisais ce travail. Il y en a qui coupe. Je t'ai vu, petit canaillou. Lequel veut prendre la suite?
Bon, je sens la pression avec les royaumes qui s'y collent.
Allez. Donc, petite pause tranquille et nous passons sur le royaume des ombres. Mon cher s'agissant, il est 21h46 à ma montre Seiko Quartz. Eh bien, c'est à toi de jouer, t'as 10 minutes.
Alors, pour une fois, effectivement, on ne peut pas parler de campagne inspirée par Lovecraft parce que les royaumes des ombres, pour le coup, c'est Clark Ashton Smith, donc était un grand ami de Lovecraft. C'est vrai qu'en France, on ne le connaît pas quasiment pas. Ses bouquins, on les trouve plus, ou très très peu. Et en fait, c'est une campagne un peu bizarre parce qu'en fait, on n'a pas quasiment pas de mythe finalement. En fait, on va commencer au départ. Donc déjà, on est juste avant la Seconde Guerre mondiale. On commence. On est des enquêteurs. On est embauchés par un type. Dans un petit village de Massachusetts, sa femme partit avec son fils, faut partir, essayer de retrouver le fils, la famille s'en fout complètement. Donc voilà, en fait, on part sur des choses déjà d'un peu étranges, c'est quasiment le quotidien de chacun. Donc ça, c'est vrai que c'est assez sympa. Et puis, progressivement, on va se rendre compte que ce petit village tranquillou du Massachusetts, y a pas mal de choses qui se passent dessous, surtout. Et en fait, on va mettre le doigt dans un espèce d'engrenage de ghoul qui débarque au fur et à mesure. Et pour se rendre compte qu'on a carrément la grosse conspiration. On finit carrément dans la jungle guyanaise avec la montée du nazisme, la montée de la Seconde Guerre mondiale, l'entrée en guerre de la France qui ne va pas tarder. Et ça menace de péter de tous les côtés. En fait, on y va pour arrêter simplement la fin du monde. Donc, dit comme ça, c'est vrai qu'on peut penser à quelque chose d'assez classique au niveau du scénario. Moi, justement, ce que j'ai apprécié, c'est le côté, on parle pas de mythe. C'est-à-dire que quasiment jusqu'à la moitié du deuxième scénar sur les 3 voire 4 possibles, en fait, on n'entend pas parler. Quoi. C'est effectivement le gamin, il y a un peu de consanguinité dans ce village, mais de là à aller dire qu'il y a vraiment des trucs horribles, non. Et puis, on va continuer jusqu'au moment où on va se rendre compte qu'effectivement, on est aussi gentil, mignon. Le bouquin en lui-même,
c'est gros, hein.
Pardon ?
C'est gros quand même comme bouquin.
Ouais, quand même, il fait quoi, 100 et quelques pages? Mais par contre, c'est 100 et quelques pages de vrai matos, quoi. C'est-à-dire que tout est super décrit, presque, et même carrément, un jeu débutant sur l'appel le prend en main. En fait, il n'y a quasiment pas besoin de bosser, quoi. Et je sais, j'ai fait le test, c'était ma première campagne que j'ai masterisée. Et en fait, oui, effectivement, tout est très, très, très bien exposé. Après, il y a un petit truc assez sympa. Ben voilà, on est aussi sur la période, c'est-à-dire qu'on sort un peu des traditionnelles années 20, presque années 30, puisque ben voilà, on est à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. On va évidemment changer un petit peu les investigateurs parce que on va finir dans la jungle. Mine de rien, c'est assez sympa, mais c'est un petit peu comme les balanciers en pleine Antarctique. Il y a quasiment personne qui avait déjà vécu en pleine jungle. Donc forcément, bah, ça va les secouer un petit peu. Et puis, bah, il y a une petite partie que moi j'ai vraiment adoré faire jouer. C'est les contrées du rêve. Parce qu'effectivement, voilà, les joueurs ont la possibilité d'aller visiter ce coin-là et d'aller carrément visiter la ville des Goules, le lieu des Goules. Et ça, faut dire quand même que c'est vraiment très, très, très fun. D'autant que moi, mes joueurs ont fait un petit peu la campagne dans l'autre sens. C'est-à-dire que ne me demandez pas comment ils ont fait. Ils sont allés dans les temps du rêve. Ils sont juste allés physiquement. Et déjà un truc un peu carrément bizarre. Et en fait, voilà, ça a été l'hécatombe. Sur mes quatre joueurs que j'avais au départ, il y en a une qui a survécu.
Oh la vache.
Ouais, bon, quand on m'a transformé un des joueurs en espèce de pseudo-boule super évolué, ça fait relativement mal. Quoique non, excuse-moi, je me trompe. J'ai deux joueurs qui sont encore vivants, la pseudo-boule super évolué pour toujours dans les temps du rêve. D'ailleurs, si vous la croisez, j'essaie bien de la retrouver, ça serait sympa. Non, voilà, et puis après, bah, les deux autres, il y en a un qui s'est fait bêtement zigouiller par les goules en rentrant dans le temple, et le deuxième, course-poursuite avec le dieu, bah, il s'est retourné, arrêt cardiaque. Voilà.
Juste une question pour t'aiguiller, c'est pourquoi tu l'avais choisi celle-là ?
Alors, en fait, je l'avais choisi pour un truc assez con, c'est que je t'ai tombé sur l'un des premiers podcasts qui parlait des manteaux noirs. Et j'ai dit, bah tiens, mes joueurs ne connaissent absolument pas l'appel. C'est vrai que ça peut être sympa d'avoir. Puis bon, quand on leur dit, ouais, je vais vous faire du Toulou, tout le monde pense forcément à grosse conspiration occulte, grosse arrivée de gros anciens, etc. Et en fait, avoir un truc finalement où le mythe n'existe pas, quasiment pas, je me suis dit, tiens, ça peut être assez sympa pour les faire débuter. Et puis, bah, la mayonnaise a super bien pris avec cette. Ce scénar
et qui est assez excellent,
ouais, qui est vraiment très très bon. Et donc en fait, bah, je me suis dit, tiens, on va essayer de trouver une espèce de pseudo fil conducteur. Donc je suis allé sur un site un peu obscur, s'appelle Toc, je crois.
Ouais, mais c'est un bordel ce truc là, il paraît.
Ouais, voilà, c'est un truc peu connu. Et il y a un petit moteur de recherche qui est pas mal et qui est entre autres cherché par créature. Donc je me suis dit, bah tiens, on va regarder tout ce qui se fait sur les goules. Et j'ai vu ça, j'ai eu l'occasion de trouver le bouquin. J'ai pas réfléchi, je l'ai acheté, je l'ai lu, ça m'a botté, je l'ai fait jouer. Et après, aussi, une petite histoire qui a été assez marrante, c'est que justement, dans les manteaux noirs, il y avait un des investigateurs qui était un parent proche et en ligne directe du gars qui se transforme en goule. Et en fait, il a juste flippé toute la campagne, savoir si lui n'allait pas se transformer en goule.
Voilà. Pas mal.
Et puis, bah, dans les petits trucs aussi assez sympa. Moi, c'est que j'aime bien quand on a des belles aides de jeu. Le bouquin en est déjà pas mal. Et surtout, quand on parle de ghouls, bah, on parle du culte des ghouls. Et bah, étant libraire, j'ai eu pas mal de chance et que je suis informé des nouveautés assez régulièrement. Et Mnemos a sorti Le culte des ghouls, écrit par Derlet, une Derlet. Personne. Et,
ça, sympa, fait, ouais.
Et j'ai le bouquin à la maison, et effectivement, quand j'ai un joueur qui a trouvé le culte des ghouls,
bam, il me prend.
Et dit, bah tiens, t'as trouvé ça.
Most impressive.
Ouais. C'est vrai que
pour le mec, il a dû passer sa partie à le bouquiner, tu sais.
En fait, je l'ai laissé entre deux parties, j'ai dit, écoute, si tu veux le bouquiner, je te prête le bouquin, il te démerde. Bon, après, ça m'a pas empêché de rajouter quelques petits trucs du genre. Appeler de l'aide, donc un petit sort que j'ai créé, et bon, c'est un peu foiré parce que donc à un moment on va dans les catacombes des ghouls, puis en fait ils se sont fait chasser par les ghouls, le gars il est là, attendez, bougez pas, j'ai une aide. Bon, heureusement il avait complètement foiré la préparation du sort parce qu'il avait très mal lu le sort. Et au bout d'un moment, ses copains lui ont dit, mais attends, le dieu infomé, ça n'existe pas, ils ont regardé le sort. Le pauvre con, c'est le dieu affamé. Donc voilà, le gars, il voulait invoquer les ghouls pour les aider à combattre des ghouls.
C'est un classique dans Evil Dead, ouais. Ah, bah, t'es sûr que t'as dit la bonne formule? Presque.
Ouais, mais c'est tellement, c'est tellement jouissif de voir ces joueurs, on leur file des sorts, ils sont là, ouais putain, c'est bon, on a des sorts, on va pouvoir les utiliser. Bah, non. Donc ouais, non, c'est vraiment une campagne très 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 fun. L'intérêt, c'est que voilà, elle est vraiment courte parce que il y a trois scénars qui sont prévus, mais on peut vraiment rajouter pas mal de matos autour. Bah, les manteaux noirs en guise d'introduction quelques années avant. On peut aller piquer dans d'autres scénars plus enquête, puisque en fait tous les investigateurs sont déjà des détectives privés. Et au passage, évite aussi le traditionnel, je sais pas comment intégrer ensemble mon psy, mon flic, mon gangster.
D'ailleurs, j'y pense, ça pourrait être un dérivatif de Nightmare Agency dont on a parlé.
Justement, j'y pensais après la dernière séance qu'on a fait, et ouais, ça peut être assez sympa de commencer par du Nightmare et puis de continuer par du Royaume des Ombres.
Ça fait de la campagne, ça. C'est good pour toi?
Ben, moi, c'est good. Si vous avez des questions...
T'inquiète pas, ça va fuser. Bon ben messieurs, la chasse est ouverte.
Ouais, moi j'ai une remarque. Alors je l'ai joué, mais je crois qu'on l'a tous joué d'ailleurs cette campagne. Donc, en faisant ta description, tu as montré un des points faibles de cette campagne, à mon avis. C'est qu'elle est censée se passer en 1940. Donc alors c'est une période que j'adore, c'est ça, qui est pas de bol, mais et la preuve en est, c'est que quand tu l'as présentée, tu savais pas trop à quelle période on était censé jouer. Est-ce que c'était avant ou après guerre, alors qu'elle débute normalement c'est mi-avril la disparition de la femme et de la fille, juste avant la déroute française. Et ce qui fait qu'en particulier quand on arrive à Cayenne, si on a plus ou moins suivi la chronologie, on est soit avant la chute de la France et du passage sur le régime de Vichy, soit après. Et moi, une critique que j'avais, et elle a souvent été faite, c'est que on est en 1940, on est dans les prémices de la Seconde Guerre mondiale, même si sur la partie américaine, elle n'est pas encore existante, hein, puisqu'ils n'ont pas encore intégré le conflit. Et c'est pas si prégnant que ça. C'est-à-dire que dans l'ambiance telle qu'elle est créée, alors que c'est une campagne assez touffue sur beaucoup d'aides de jeu, le choix de la période, en fait, on le sent presque pratiquement pas. On aurait quasiment pu jouer en 1938 ou en 1930, ça aurait été quasiment pareil.
Et ça, en fait, je dirais que ce qui est justement intéressant, c'est que on est pendant la Seconde Guerre mondiale, oui, effectivement, j'ai pas revu mes notes pour la date, honte à moi, mais les États-Unis sont pas en guerre. Donc effectivement, on peut complètement occulter cette partie du PG pour en fait les rebalancer dans la tranche des investigateurs quand ils arrivent en Guyane, parce qu'effectivement, la France, pour le coup, est sur le point de perdre ou sur le point d'être occupée.
Dans mon souvenir, le fait qu'il l'ait mis à cette époque-là, c'est juste pour se dire, je sais même plus si c'est lié à la guerre. Est-ce que le fait qu'il réussisse ou pas le scénar, ça change quelque chose sur le déroulement de la guerre?
Rien du tout.
Donc, moi je suis assez d'accord avec Fox, c'est que ça pourrait tout à fait décaler. Et je me rappelle que moi-même, j'avais pas mis l'accent sur la période. C'est très juste.
En fait, j'ai pas mis plus, sauf sur la fin, effectivement, où je leur ai quand même fait sentir que la Guyane est un petit peu tendue, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, eux sont en guerre, pas nous.
Alors, il y a un truc. J'interviens, il y a un truc que t'as oublié, qui est assez génial dans cette campagne, c'est que t'as parlé des ghouls, mais autant d'habitude, les ghouls vous les trouvez dans la partie PNJ créature, autant là, je sais pas si vous avez déjà joué à Lyonnais, et vous saurez de quoi je parle quand je parlerai des gobelins et tout ça, mais là le truc, c'est que si vos joueurs, si vous avez du bourrin, si vous avez du bien con, si vous avez du on-off, les méchants c'est les noirs, les gentils c'est les blancs et tout ça, là, c'est un carnage, parce que vos joueurs vont être obligés, attention, ça spoil la danse, de collaborer avec les ghouls. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en sortir si on essaie de défroyer les ghouls, parce que déjà, elles sont super nombreuses. Deux, il y a vache, c'est hyper bien foutu, je me rappelle qu'on l'avait lu, tu vois, moi, l'impression que j'ai comme ça, c'était poisseux, c'est une campagne poisseuse. ça colle, il fait chaud quand tu lis, et il y a des créatures très très humaines contre lesquelles tu vas te confronter et avec qui tu vas travailler. Parce qu'il y a plein de sortes de ghouls dans le bouquin, je me souviens. Il y a différentes, il y a des ghouls évolués, il y a des ghouls complètement connes et tout ça. Mais en réalité, très rapidement, les joueurs vont s'apercevoir que les ghouls ne sont pas forcément leurs ennemis. Ah. Et ça, j'avais trouvé ça... Oui, excuse-moi, vas-y.
En fait, ça va même plus loin, parce que bon, je voulais pas spoiler encore plus.
Ah mais... si, il faut, à mort.
Bon, d'accord, allez. En fait, le premier scénar, les mecs qui embauchent les joueurs est une ghoul. donc c'est ça qui est horrible, c'est-à-dire que...
C'est génial. Franchement, c'est génial.
D'accord, on est sur une petite ville complètement consanguine, etc. Non, c'est pas une smousse où ils sont tous en train de devenir profonds. C'est qu'il y a réellement des ghouls qui vivent là, qui vivent au jour le jour, et qui font leur taf, quoi.
Et je me rappelle que ça avait scotché mes joueurs, quoi, parce que la confrontation, ils avaient la main sur le flingue. C'est là où le maître. Les joueurs doivent être intelligents, ça va pas être des bœufs, mais le maître aussi doit être intelligent. Faut pas qu'il fasse genre.
Salut, je suis la ghoul.
Faut pas qu'ils se mettent à faire parler les ghouls comme ça, ou genre on va devenir amis. Il faut vraiment qu'il y ait toujours cet antagonisme latent, ce qui fait, dans une autre circonstance, on serait des ennemis, j'essaierais de te bouffer la gorge en t'arrachant l'œsophage, et toi t'essaierais de me balancer toutes les bastos de ta Thompson. Mais là, il y a un truc au-dessus, et on est obligé de travailler ensemble, et ça c'est assez génial. Parce que je me rappelle que j'avais un joueur, moi, qui, quand je l'avais fait jouer, qui était toujours mais la main sur le flingue, quoi. Et à chaque fois qu'il faisait un truc, il disait « Faut pas leur faire confiance. Je passe derrière. Non, mais je prends de la dynamite. » Et pendant toute la campagne, il avait flippé sa race, quoi. Parce que à chaque fois, tu sais, genre, celle qui parlait pas trop bien ou qui se suintait un peu le plus dans les ghouls, elle était toujours avec lui, quoi. C'était devenu un peu son copain. Il n'en pouvait plus. Il m'avait dit « J'étais à deux doigts de foutre le bordel dans la campagne. » Et cette campagne-là est vraiment très bien foutue, parce qu'en plus, c'est ce que tu disais, Sergissant, c'est que c'est très très décrit. C'est-à-dire que tous les bouquins sont décrits. Comment fonctionnent les ghouls? Qui sont leurs chefs? Quelle est la structure hiérarchique? Quels sont leurs buts? Comment on leur parle? Comment on veut? Comment elles vivent? Mais tout est vachement bien écrit. En fait, la campagne à lire, c'est un pur bonheur. C'était chez Pagan, hein, c'est ça, je crois.
Non, c'est
Pagan. Ouais, Pagan.
C'est Pagan.
D'origine et Descartes en France.
Ouais. Et franchement, c'est génial. Qu'est-ce qu'il n'y a pas parlé des sprites?
Moi je voulais savoir comment est-ce que tu avais géré les transitions entre les chapitres, parce que je me souviens qu'à la lecture, je me suis dit que c'était pas évident à gérer.
Alors en fait, comment j'ai joué ça? Donc déjà j'ai commencé par quelques années avant, sur les manteaux noirs. Donc là en fait je leur ai dit, bon voilà, vous faites ce que vous voulez, ils ont fait les manteaux noirs. Je leur ai dit, on va faire un petit interlude de quelques années. Et puis on va commencer effectivement, voilà, la crise de 29 est passée, vous avez dû quitter votre boulot, vous avez commencé trouvé du boulot comme enquêteur dans une agence de détective. Et en fait, entre le prélude et le début de la campagne, il n'y a pas eu de vraie transition. Et après, étant donné que ils ont fait le premier scénar, je les ai renvoyés, je ne sais plus où ils partent, je crois de Boston ou de New York. Et puis après, je leur ai dit, écoutez, quelques temps de là, votre patron a besoin de vous. Vous avez déjà enquêté sur Greenfield, vous connaissez le terrain. On commence à avoir on a besoin d'un peu plus d'informations sur un cas. On vous envoie. En fait, finalement, j'ai géré ça presque comme la bête quête de PNJ de jeux vidéo où. Là, pour le coup, ils connaissent le terrain, ils savent déjà comment c'est, ils peuvent voir plus ou moins des contacts.
Je pense que ce que vous voulez aussi voir des sprites, c'est entre les scénarios même au sein de la campagne, parce que tes investigateurs, ils prennent pas forcément à la sauce. Toi, ils ont bien transité entre la Guyane, tout ça, ça s'est bien passé. Je pense que c'est ça les sprites aussi.
Je vais juste rajouter un truc, c'est que c'est en particulier le temps qui passe entre les différents épisodes.
D'accord.
Il y a quand même effectivement du temps qui passe. Moi, c'est vrai que j'en ai tenu compte dans le sens où, voilà, je les ai fait revenir, ils ont refait un petit peu leur vie, et après, je les ai renvoyés, sur un autre cas. C'est leur boulot quotidien, quoi.
D'accord. T'as inséré du scénar entre les deux.
J'ai dû insérer peut-être un petit scénar entre les deux, mais un truc vraiment d'enquête, quoi. Je ne sais plus comment j'avais géré ça. Par contre, pour la Guyane, pour le coup, ils ont un petit peu fait la campagne à l'envers. C'est-à-dire qu'ils avaient tout le matos pour aller en Guyane, sauf que, en fait, ils sont partis directement dans les temps du rêve. Et là, ça a été du gros what the fuck.
D'ailleurs, on dit toujours que les temps du rêve, c'est pas facile. Ton impression, après les avoir joué dans les royaumes des ombres?
Je venais de sortir de 2 ans de mastering d'anima, donc du Medfan à fond. En fait, pour le coup, c'est pas...
T'en as pas entendu?
Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que je les ai fait... j'ai fait un petit dégoût Ex Machina quand ils sont arrivés. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont arrivés. Ils avaient des compétences, effectivement, en arme à feu, en trucs comme ça. Sauf qu'ils sont arrivés, ils ont eu carrément changement de costume. Donc ils se sont retrouvés directement avec, au lieu de l'arme à feu, un bon vieux cimetière. Au lieu du petit Behringer, il y avait un petit couteau planqué dans un jupon. Enfin voilà. Et en fait, avec ça, moi je n'ai pas eu le temps vraiment d'explorer beaucoup plus. Mais il y a moyen d'insérer carrément du Medfan traditionnel.
Ah, c'est ça. Moi perso, c'est ça le problème. J'avais pas beaucoup joué la partie contrée du rêve. Parce que j'aime pas les contrées du rêve. Je trouve ça tout pourri. c'est ma version perso. Ouais. Mais autant tu vois une version altérée de notre monde et tu vois un truc un peu trouble où les objets sont pas où ils devraient être, où les gens sont différents et tout. Autant ça, j'arrive à le faire jouer. Autant les contrées du rêve, j'ai toujours l'impression de dire. Ah, attention, on passe en mode de Donjons et Dragons, c'est parti, classe d'armure, les HP, et hop, c'est parti. Et j'ai toujours eu du mal, la montée, l'arrivée dans les contrées du rêve, c'est toujours sympa, mais quand il faut commencer à décrire les gens, les bâtiments, et je sais pas, toi Fox, tu l'as fait jouer aussi, t'as bien appuyé sur les contrées du rêve ou pas?
Très rapidement, parce que d'une part, d'ailleurs, ça va me permettre de critiquer un peu cette campagne, même si je l'adore, hein, parce que je pense qu'il faut aussi bien pointer s'il y a des choses qui sont dures, je pense, pour quelqu'un qui l'apprend comme ceci. Et j'avais vraiment peur qu'ils s'y perdent, en fait. Et je trouve que parfois les motivations sont pas si évidentes que ça. Et donc, pour moi, il fallait pas que ça dure trop longtemps sur cette partie-là.
Ouais.
Après, c'est vrai que c'est aussi présenté comme un scénario optionnel. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité d'aller voir les contrées du rêve. D'aller voir une cité gouvernée par des ghouls. Pour les plus hardis, éventuellement, d'aller voir carrément le dieu des ghouls. Je sais pas comment est-ce qu'on voit ça.
C'est du léger, quoi.
Ouais, j'ai quand même 2 joueurs hein, qui l'ont vu. Le premier, c'est l'espèce de ghoul surévolué, parce qu'il est fini autiste, et donc les autres ont l'utilisé comme rat de laboratoire. Et le deuxième, je vous dis, arrêt cardiaque.
C'est ça le problème, c'est je trouve on perd tu vois on fait plein de trucs dans le Medfan qu'on fait pas dans l'appel de Cthulhu, et je trouve que quand on rentre dans les contrées du rêve, on repasse dans un monde où tu sais c'est le monde où c'est ce que j'appelle là le monde où je jette une pierre dans le puits. C'est-à-dire que dans le monde réel, quand t'es près d'un puits, tu vas jamais jeter une pierre comme ça comme un con pour savoir ce qui se passe. Par contre, dans un donjon, s'il y a un strum au fond ou quoi que ce soit, tu balances toujours une pierre avant, genre, bon, ok, il n'y a pas de piège, c'est bon, je peux y aller. Et j'ai toujours cette impression-là que les contrées du rêve, c'est trop... alors, je sais pas, c'est peut-être une mauvaise interprétation qu'on en fait ou que moi, je le joue mal, mais j'ai toujours cette impression qu'on arrive dans une... Et en plus, comme c'est dans le rêve, les joueurs ont tendance à dire, bon, ben, voilà, je fais un peu ce que je veux, je vais faire des expériences, je me rappelle, il y a des... Vas-y.
Pour le coup, en fait, moi, c'était... Alors, on était dans les contrées du rêve. Pour eux, c'était réellement physique.
Oui, d'accord.
Effectivement, ils jouaient leur vie, quoi. C'est-à-dire que c'est pas...
Et ça, tu leur as...
...dans le coin pour voir ce qu'il y a, parce que...
Et ça, tu leur as dit directement ou ouais, tu leur as fait comprendre?
En fait, ils l'ont vu directement.
D'accord. Oui, donc ça, à la limite, ça calme les... Voilà. D'accord.
Non, j'ai pris quelques libertés et justement, j'ai bien insisté sur le vrai changement. C'est-à-dire que quand ils sont passés, effectivement, ils ont changé de costume complètement. Les 3/4 de leurs compétences d'action, ils pouvaient se les carrer. Ça ne dirait plus à rien, hein, les armes à feu, il n'y en a pas. On est sur du médiéval oriental.
Mais t'as pas converti?
Alors, non, j'ai pas converti.
Genre, moi je sais que j'avais fait ça, je m'en étais pas beaucoup servi, mais en réalité j'avais fait des transpositions, c'est-à-dire que celui qui était pharmacien était devenu apothicaire, alors, celui qui avait
fusé. Théoriques, il les avait toujours, c'est-à-dire qu'effectivement le pharmacien a toujours des connaissances en arboristerie.
D'accord,
Il peut toujours soigner. Par contre, le mec qui avait arme à feu, ben, il a toujours arme à feu.
D'accord.
Bon, il n'y a pas d'arme à feu, mais il l'a toujours. Bien. Et après, voilà, effectivement, ils ont fait des tests, mais ils savaient que le joueur était mort. Hein. Il a buté des boules, il n'y a plus de mots intelligibles. Ils se sont dit, bon, si on teste sur nous, peut-être avoir du mal. Si on teste sur lui, déjà, on verra s'il y a des problèmes. Donc, effectivement, en fait, le fait d'être physiquement dans les temps du rêve, ça squeeze ce côté un petit peu, comme tu dis, à la donge, où on peut faire un peu
le truc, c'est que, un contre-argument, c'est que, qu'ils fassent des expériences sur un des autres joueurs, ils sont plus dans un monde proche du nôtre, quoi.
Ils savaient qu'il y avait peu de chance aussi de rentrer.
Voilà.
Et d'accord. Avec moyen de rentrer.
Messieurs, avez-vous d'autres questions ou d'autres remarques, Fox, ou même VirtuaSep, si tu veux?
Ouais, moi je veux bien. Moi je voulais juste savoir, c'est une question de MJ, c'est comment on fait pour faire comprendre, moi je me mets en tant que joueur, comment on fait comprendre aux joueurs qui peuvent interagir avec les ghouls, quoi, parce que elles essayent de rentrer en contact avec eux à un moment donné, ou à quel moment on leur fait ressentir que la vraie solution c'est pas de les poutrer, quoi.
En fait, régulièrement, les personnes qui leur permettent d'avancer, justement, ce sont des ghouls. Donc, c'est pas visible au premier abord qu'ils arrivent à tenir une conversation un peu cohérente. Bon, il y a toujours les petits trucs bizarres.
L'odeur. le truc, c'est ce que dit Sergissant, c'est ça, le truc qui est sympa, c'est que. Pour leur faire comprendre que les ghouls ce sont leurs alliés, t'as plusieurs moyens. T'as déjà le nombre, parce que dès qu'ils vont s'apercevoir qu'en réalité tous les sous-sols sont truffés de galeries et qu'il y a des ghouls partout, soit ils sont complètement cons et là tu les tues et puis tu passes une autre campagne, soit ils vont se dire putain, ok, on n'arrivera jamais à annihiler la menace, donc il faut faire avec. Donc il y a surtout le fait que on va pas décrire les ghouls comme ça. Au début, ça va être, je sais plus, mais je crois que c'est un type qui arrive toujours avec un espèce d'impair, enfin un espèce de manteau assez long, qui fait crade, qui est un peu bossu. Tu vois, au début, là, il faut être un bon maître. C'est-à-dire qu'au début, tu vas dire qu'il a l'air d'avoir un problème à la hanche, peut-être, parce qu'il claudique un petit peu. Puis, la fois suivante où il rencontre, c'est bizarre. Il doit pas se laver, parce que ça va être un espèce de mec errant, parce qu'il y a une odeur. Puis au fur et à mesure, moi je me rappelle, mes joueurs, ils disaient, quand ils ont fait le bilan, c'est odeur, machin, voix sifflante, plutôt venir la nuit, machin, ils se sont dit, putain, mais qu'est-ce que c'est cette merde?
Énorme.
Voilà, au début, c'était ça, c'est-à-dire, faut pas du tout, si t'as des joueurs bien bourrins, genre qui se jettent sur le mec et qui essaient de lui retirer son manteau, c'est mort, tu les tues, puis voilà, terminé, hop, fin de campagne. Par contre, moi je me rappelle, au début, tu sais, il se rapprochait un peu, genre, mais allez-y, dites-nous. Puis le mec se barrait toujours, il avait toujours tendance à garder une certaine distance, parce que c'est ce que je disais, il y a beaucoup de types de ghouls qui sont décrits dans le Royaume des Ombres, et celles qui vont rentrer en contact avec eux, c'est les plus évoluées. Et c'est quasiment des humains un peu dégénérés, c'est plus ça, quoi.
Ça peine plus dur qu'un gros consanguin.
Voilà, tu prends un mec dans le métro qui a plus de dents et qui rentre pour demander de l'argent, tu lui rajoutes un petit côté claudiquant et c'est bon, t'es une gueule.
Il y a aussi, c'est que le premier scénar, en fait, ils sont embauchés par une goule. Donc, on va rarement en fait mettre en cause son commanditaire. D'autant que après, effectivement, on a un cirque de créatures bizarres et effectivement, ils ont un gamin qui ressemble à une goule. Donc effectivement, voilà, on peut partir, on peut leur dire, voilà, les ghouls, c'est moche. Les ghouls, ça parle mal. Les ghouls, ça a perdu la lumière. Et en fait, tous les PNJ que vous croisez, ils parlent bizarrement, mais on les voit au jour le jour. Ils ont une vie, ils ont un métier. intelligent, pas super super moche, et un petit peu quand même. Et au fur et à mesure, bah, commencer à mettre les points communs ensemble.
Puis, en plus, je rajouterais que mes joueurs, au bout d'un moment, ils avaient entrevu aussi le potentiel, quoi. Alors, ce qui est con, c'est qu'il y a la campagne qui se déroule autour. Mais c'était dit, putain, avoir des alliés comme ça, c'est énorme. Enfin, les mecs, ils sont dans tous les sous-sols et tout. Ils peuvent entendre ce qui se passe dans les maisons. Ils ont des moyens de se barrer n'importe où. Et moi, je me rappelle, il y avait un des joueurs, c'était ça. Il s'était dit, putain, il commençait à essayer de leur donner des noms pour essayer de noter en disant, ouais, c'est mes contacts chez les ghouls et tout. Donc, c'est sûr qu'on n'est plus dans, on n'est pas dans un scénar où clairement on fait la différence entre le PNJ qui est un humain normal et le méchant qui est soit un sectateur complètement taré, soit une créature qui n'existe pas. Là, dans la campagne, les PJ vont vivre avec des PNJ. Ils sont ensemble, quoi.
Et donc c'est. Pour la vision aussi, la grande force, c'est que justement on va changer les traditionnels cultes. De fin du monde, etc. On côtoie ça sans le savoir.
Alors, par contre, faut pas être salaud. Hein. C'est-à-dire qu'il faut, sorti de cette campagne-là, il faut pas leur balancer un scénar avec des ghouls méchantes juste après, parce que ça, c'est un truc à les faire défoncer, quoi. Genre, salut! Ah, copain!
Ne vous inquiétez pas, c'est sympa, ça, comme bestiole. Complètement, celle-là.
Et justement, tout ce que vous avez dit, moi, ça provoque quand même une critique de ma part sur cette campagne, que je vous rappelle, j'adore pourtant. C'est que tout ce que vous dites, c'est pas clair, en fait, dans la descriptive. Le livre est très complet, etc. Et d'ailleurs, je me suis amusé à reprendre le bouquin, et je vais vous citer les récompenses et les pénalités telles qu'elles sont décrites à la fin du deuxième scénario, donc c'est la pâture.
Vas-y. Du jeu.
C'est incendier l'entreprise Betwick, plus un des 6 points de sable, etc., etc. Pour chaque ghoul tué, plus un des 6 points de sable, etc., etc., etc. Et moi, je pense, et c'est la critique que je ferai sur cette campagne, c'est que avec quelqu'un qui n'arrive pas à lire entre les lignes, et pourtant c'est épais, hein. Il y a pas mal, c'est très complet sur le descriptif, etc. C'est pas du tout didactique sur la manière de la mener, cette campagne, et de la manière de faire jouer ces scénarios. Moi, je me rappelle que régulièrement, lorsque j'ai préparé les scénars, je me suis clairement demandé ce qui allait se passer. C'est-à-dire que t'es incapable de clairement imaginer ce qui se passe. Alors c'est vraiment vrai sur le dernier scénar qui se passe à Cayenne lorsqu'on arrive sur le temple qui se trouve au beau milieu de la jungle. Et moi je pense que quelqu'un qui ne se prépare pas du tout, il peut vraiment trouver ça. Alors il peut être complètement noyé par cette campagne. Il peut clairement trouver que c'est de la merde, hein, parce que il trouvera ça hyper bourrin. D'ailleurs, c'est des fois une critique qui avait été faite sur cette campagne, parce que c'est souvent la seule solution que pourraient trouver les joueurs parmi tout ça. Et parce que parfois, à part sur le premier scénar, je trouve que les motivations pour résoudre les affaires sont pas toujours claires et évidentes. Alors, je sais pas si vous avez ce sentiment-là, mais moi, il m'a fallu quand même plusieurs lectures de la campagne pour pouvoir le trouver.
Le truc, c'est que autant je sais pas du tout improviser, enfin, je sais pas créer de scénario, autant les scénarios ou les campagnes que je lis sont toujours une base de travail plus qu'un guide. Et c'est vrai que par exemple, je fais quasiment jamais les récompenses à la fin. Et j'avais viré la partie des contrées du rêve. Et c'est vrai que, enfin, moi, l'orientation. Alors, ce qui est très juste dans ce que tu dis, et c'est tout à fait vrai, Fox, c'est que tu sais pas, quand t'as préparé le scénar, ce qui va se passer. En fait, la plupart des campagnes ou des scénarios, vous dites, bon, ok, il y aura ça, ils vont faire ça, ça, ça. Mais là, quand vous lâchez vos joueurs sur les scénarios, ça peut vraiment, enfin, faut vraiment les connaître, quoi. Vous pouvez pas faire ça avec une équipe que vous connaissez pas, très honnêtement. Il faut absolument que vous sachiez où est-ce qu'ils vont vous emmener. Sinon ça va être la galère pour vous. Et c'est vrai qu'à la lecture, c'était pas une campagne simple à lire. C'est une campagne où je me rappelle, j'avais pris pas mal de notes, j'avais relu, et maintenant que tu le dis, c'est vrai que la séparation, je me rappelais même plus qu'il y avait des récompenses pour avoir tué les ghouls, quoi.
Disons que par rapport à ce que vous avez expliqué, les récompenses sont complètement contradictoires.
Clairement. Et moi, ce que je critique aussi, par exemple, franchement, il faut avoir des joueurs super sympas pour aller à Cayenne. Non, c'est clair, il y a pas réellement de motivation, hein, parce que bon, ils sont bons joueurs et puis ils ont compris qu'il fallait aller là-bas. Et trouve-leur une raison d'y aller. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont y faire? Vous, quelles ont été les motivations qu'ils ont poussé à aller à Cayenne?
Je sais plus, moi.
Moi, en fait, ils y sont même pas allés. Mais par contre, effectivement, ouais, j'avais vu qu'il y avait un gros vide à ce niveau-là. Moi, en fait, ils avaient vraiment compris que, voilà, il y avait un culte à Kanyen qui risquait de faire venir le dieu des ghouls sur Terre. Et effectivement, fallait l'arrêter. Mais après, ça, c'était avant qu'ils n'aillent dans le cimetière et qu'ils finissent dans le tunnel des ghouls. Et là, je me suis dit, c'est simple, soit je les bute tous maintenant, ils sont partis à 4 armés dans un tunnel de ghouls, soit on fait un gros switch et on part sur autre chose, on essaie de voir comment ils peuvent s'en sortir. Et là, effectivement, je suis parti dans les contrées du rêve. Et ouais, effectivement, le Cayenne, ils l'ont quasiment pas vu.
Ben moi, Cayenne, en réalité, le truc, c'est que j'ai des joueurs qui sont un peu comme moi et qui aiment bien Indiana Jones et tout ça. C'est vrai que il y avait pas eu énormément d'exotisme dans le début de la campagne. Et qu'en plus, les contrées du rêve, ça me saoule. Et c'est vrai que moi, Cayenne, ils l'ont pris un peu comme, comme une espèce de défouloir, bras dessus avec les ghouls. Et c'est vrai, c'est un peu, tu vois, c'est un peu un reproche. C'est le même reproche qui est fait de façon tout à fait justifiée aux ombres de Oxotot, où il y a des très bons scénars, mais où, putain, il y a des fois, tu te dis comment ils vont aller de l'un à l'autre, quoi. Et sans déconner, c'est encore pire que la boîte des limites du tigre trébuchant pour les masques de Natotep, quoi. C'est... Le mec avait un slip fait à Cayenne. Allons à Cayenne.
C'est un peu ça.
C'est du...
D'ailleurs, t'es même pas sûr de trouver d'ailleurs cette carte parce que ça se trouve elle peut brûler dans le deuxième scénario. Moi, si j'ai un conseil à donner dessus, ce qui m'a vachement aidé pour la mise en ambiance et justement faire le lien et trouver aussi des manières de jouer. Et ça, c'est vraiment le point fort, qui est parfois des fois le point faible de son détour, c'est les illustrations. Les illustrations, elles étaient des fois tellement expressives. Là, j'en ai une sous les yeux. C'est celle où t'as Adelaide à poil en train d'égorger une femme blonde. Je sais pas si vous vous rappelez. Mais tu comprends qu'il va se passer des trucs qu'il faut vraiment contrecarrer. Hein. Il y a aussi cette photo où t'as le type avec la dynamite tout autour de la taille
pour
pouvoir attaquer. Ou alors cette illustration où t'as le type qui est dans le trou, les lunettes complètement de travers, et derrière il se fait pourchasser par des ghouls. Et toutes ces illustrations, elles m'ont vachement aidé pour trouver des moments hyper cinématiques, pour relancer la campagne, pour relancer les scénarios. Et en plus, elles sont super ces illustrations, hein, souvent comme chez Pagan.
Et vous avez remarqué la maquette, avec les dents, les yeux,
dents,
c'est ignoble.
Et heureusement qu'elles étaient là, ces illustrations. Hein. Moi, je pense qu'elles m'ont vachement aidé au quotidien.
Et très inspirante donc, aussi.
Ouais, donc en réalité, ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'on pourrait tout à fait la sortir de l'époque où elle était, de pas forcément faire un passage très très long sur les contrées du rêve, et de rajouter finalement une espèce de lien pour les faire venir à Cayenne de façon plus facile. Alors, c'est vrai que moi, je me rappelle plus trop comment ils étaient allés, à part le côté Indiana Jones, En réalité, quand ils ont senti qu'ils devaient aller à Cayenne, ils sont tous précipités. Bon, alors, je vais acheter une moustiquaire, je vais acheter un Bermuda, et puis, c'était la fête à Neneu. Mais c'est vrai que c'est pas facile.
Après, c'est vrai que c'est aussi le côté sympa de cette campagne, c'est que, on a la campagne, et après, elle est entièrement modulaire. C'est-à-dire qu'on peut très facilement, rajouter des scénarios, justement pour aider les joueurs, en fait voilà, on n'a pas de déjà on n'a pas de timing super serré, là on est vraiment libre. Et le vide entre les scénars, j'ai pas forcément plus exploité ça parce que c'était aussi ma première campagne, mais après avec le recul je me dis que ouais, on a moyen de partir sur une presque de scénars.
En fait, c'est très juste.
Le royaume des ombres, quoi.
Voilà, c'est très juste. À la limite, l'intérêt serait de recaler quelques scénars avec des ghouls entre ces scénars-là, ou peut-être d'autres scénars. Mais c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée de se dire, tu vois, je sais pas ce que t'en penses, Fox, mais l'enchevêtrer par exemple avec Nightmare Agency, parce que et peut-être faire.
Moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est à mon avis justement pour trouver toute la cohérence sur la partie finale. Il faudra avoir plein de scénarios qu'il faut rajouter, donc ça augmente la campagne, mais ça fait aussi du boulot. où il y a toujours des petits indices qui vont montrer qu'il va se passer quelque chose de grave à Cayenne, dans ce temple, dans quelques mois. Et c'est toutes les pièces de ce puzzle que tu rajoutes au fur et à mesure, peut-être à un moment la localisation, ce qui peut s'y passer, etc., etc., qui fait que les gens vont se dire, putain, si on fait rien, c'est la fin du monde. Hein. Donc, et là, on pourrait d'ailleurs exploiter on pourrait exploiter d'ailleurs cette période de la Seconde Guerre mondiale. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer ici qui pourrait accentuer la gravité de ce conflit, j'en sais rien.
Hein, voilà. Ou faire tout péter, ça fasse descendre le niveau de menace, ouais, tout à fait, ouais. Et je crois que je me rappelle d'ailleurs m'être attendu à ce que, en lisant la campagne, à la fin ils disent, genre, voilà, finalement, ce qu'il y a au cœur du temple, c'est un truc super vital qui va être amené en Allemagne et qui servira à je sais pas trop quoi. C'est vrai que je m'étais attendu à plus de...
Ah ouais.
Un peu à la... Pas...
Ouais, c'est une critique de la partie de Cayenne, c'est que, franchement, si tu veux, il se passe rien, quoi. Hein. Donc, si t'as des joueurs qui sont pas entreprenants, qui sont pas un peu, moi, ils étaient pareils à la peu avec Diana Jones, donc ils sont,
moi, clairement, ils s'attendaient à voir l'Arche d'Alliance, hein.
Ouais, moi, c'est un peu ça. Mais d'ailleurs, c'est pas ça que je jouais, hein, avec un truc final, complètement, apocalyptique. Mais il pourrait se passer des types qui viennent, qui disent, oh putain, il y a du monde. Et on va faire demi-tour, en marchant sur la pointe des pieds, et là, toi, un peu en tant que gardien, t'es un peu comme un con, quoi. Donc,
mais t'as pas tellement de moyens, ouais. Des sprites. Ouais. Des sprites. D'autres questions, remarques, ou bientôt Seb?
Non, pas particulièrement.
Actuellement, j'ai peut-être juste un truc.
Bien sûr, vas-y.
C'est en fait une demande. Si jamais il y a des personnes de la clé d'argent qui nous écoutent, participer, rééditer le lieu carnivore. En fait, la nouvelle qui sert de base, c'est les deux carnivores de Clark Ashton Smith. Et quand je dis que Clark Ashton Smith, c'est quasiment pas connu en France, il n'y a qu'un seul éditeur, ça s'appelle La Clé d'Argent.
Ils sont super sympas en plus.
Ah ouais, ils sont super sympas. Qui essaie de rééditer ça. Le problème, c'est que il n'y a plus rien qui soit dispo. C'est pas facile de les avoir en librairie, et je suis libraire, je sais ce que c'est. Si vous pouviez les rééditer, ce serait super, parce que franchement, on a besoin de cet auteur en France. Voilà. Donc désolé.
C'était la demande de Serge Gisson.
Moi, j'avais encore une question à te poser, Serge Gisson. Je voulais savoir, quand on a des investigateurs qui sont un peu taquins et qui ont de la bouteille, comment est-ce que tu les dissuades d'essayer de foutre toutes les personnes qu'ils rencontrent à poil et d'appeler la police tous les quarts d'heure pour constater qu'un mec a des articulations de jambes inversées et du poil partout?
Alors déjà, en fait, ils ont...
C'était le moment de la question con d'Esprit.
J'ai remarqué, et la question con, réponse con. Non,
faut le savoir. Hein.
Alors, ils ont commencé par les manteaux noirs. Donc effectivement, à la fin des manteaux noirs, ils se sont pris... ils étaient quatre, il y avait 15 ghouls qui les ont accueillis. Ça les a un petit peu refroidis. Finalement, ça s'est plutôt bien passé. Et en fait, c'est à ce moment-là, je pense qu'ils ont dû comprendre que, ouais...
Je te dirais, Desfred, qu'il n'y a pas de moyen à ce que tu dis. C'est-à-dire que si tes joueurs, ils sont vraiment taquins, et s'ils commencent à faire ce genre de choses, c'est pas pour critiquer, hein, les joueurs, il y en a tous les types, mais cette campagne, elle est tellement bizarrement foutue que... ça marchera pas. Dans ces cas-là, il faut rapidement switcher sur un autre scénar ou un truc comme ça, parce que c'est vrai que, enfin, le suspension of misbelief, là, le fameux truc je sais que je suis pas dans le monde réel, mais bon, je le sais pas, enfin, je fais comme si je le savais pas. Là, c'est vital. C'est-à-dire que, il y a des ghouls et tout, et moi je me rappelle le premier mec que j'ai décrit, un mec qui bat dans la rue, puis qui a l'air un petit peu voûté, ils me font, d'accord. J'en fais, non, putain, lâchez-moi, c'est bon. Dès qu'il y a un mec qui pue du bec, ou qui pue des pompes et tout ça, c'est pas forcément une ghoul. Voilà, c'est ça. À terre!
Non, mais ça peut générer justement des situations de jeu intéressantes, la police pourrait être saoulée, les foutre en taule, je sais pas.
Alors, en plus, ça s'est passé. Ils ont essayé d'appeler les flics à un moment. Et en fait, les flics étaient les ghouls.
Ça c'est bon ça.
Ça calme un petit peu. Et ouais, effectivement, ils ont un peu calmé avec ça quoi.
Tu noyotes le monde réel quoi. Tu dis.
Ouais. Bah, toute la ville en fait était des ghouls quoi. Il y avait peu de réels humains. Et les quelques qu'il y avait, ils les ont vite vus et déjà, il y avait eux aussi des problèmes. Quoi.
Je dirais qu'il y a un petit côté quatrième dimension hein, dans ce premier scénar-là. C'est-à-dire que on est vraiment dans un truc un peu parallèle. C'est-à-dire que moi, dès qu'ils ont commencé à découvrir qu'il y avait des ghouls partout, il y a un moment donné où j'ai cru les perdre. Hein. Je me suis dit, est-ce qu'ils accrochent ou pas? Bon, ils accrochent, c'est bon, on continue. Mais tu te dis, ouf. Je vais être obligé de faire sortir le mec, tu sais, l'image se fige et le mec débarque. Oui, sans le savoir, vous venez d'entrer. Excuse-moi, Fogosazi.
Moi, en fait, ça a été l'inverse, en fait. Effectivement, quand ils ont commencé à voir qu'il y avait beaucoup de ghouls, c'est les ghouls qui ont porté plainte, en fait. Et donc, ils se sont fait arrêter pour violation de domicile.
Ah, putain, c'est bon, ça.
Mais regardez, il est plein de poils en dessous.
Bah oui, et comme moi.
Bon après, bon, ça a évolué bien sûr à leur avantage, mais avec les suites des enquêtes. Mais ouais, ils se sont fait arrêter pour violation de domicile et de propriété. Et pour une fouille nocturne dans un cimetière. Ouais.
Bah ça, c'est pas mal, c'est-à-dire que le pire moyen de les dissuader, c'est le nombre. C'est de leur montrer qu'ils auront jamais le dessus. Mais par contre, il y a plein de moyens plus intelligents et plus subtils, comme dit Fox et tout ça, ou même, comme disait Sergi Sand, d'avoir noyauté toute la ville. Il y a plein de moyens plus intelligents pour se dire, tes joueurs vont se précipiter sur un truc, en se disant, c'est bon, je l'ai eu. Si t'as moyen de retourner la situation, ils disent, bon, ok, d'accord, on rentre dans le rang, va falloir faire avec. Ce salopard-là, il a le bras long, et jusqu'où ça s'étend. Donc c'est vrai, mais c'est assez subtil. Bon, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Je vais donner ma note. Et à la lumière de mes souvenirs et de ça, je dirais que je lui mets un 3. 3 parce que, c'est pas une campagne qu'on lit, où on prend une équipe et on la joue. Non. On connaît son équipe, on la prépare, est-ce qu'on la sent, est-ce qu'on la sent pas, on complète, on fait des rajouts et tout ça, donc c'est pas une campagne simple. Moi perso je mets 3. Fox?
Moi je mettrais 4 pour l'expérience de jeu et 2 pour la préparation.
D'accord. Desperate, il a donné envie, Sergissant?
J'ai jamais réussi à faire jouer cette campagne, mais oui, j'aurais très envie, je le mets sans hésiter, un 4, 4,8.
D'accord, ah ouais, carrément.
Surtout, on n'en a pas énormément parlé, mais il y a une ambiance dingue qui ressort de cette campagne. Et chose que je trouve remarquable, c'est une campagne qui peut coller pour des joueurs qui ont de la bouteille. Il y a beaucoup de choses surprenantes, il y a pas mal de petites thématiques explorées qui sont un peu inhabituelles dans le monde de Lovecraft, comme les enfants, ou bien la médecine et la science appliquées aux humains, le cannibalisme, que je trouve un thème extrêmement fort, un thème très humain.
Très juste.
Pour moi, il y a vraiment quelque chose de une ambiance folle qui sort de ce truc. Un trip badass hard pulp qui te fout une putain de niaque, seul contre le reste du monde. Ouais, non, moi je lui mettrais un 4,5, 4,8 facile.
Et justement, on n'est pas sur du Lovecraft.
C'est ça le truc. VirtuSM, ça t'a donné envie? Si t'avais une note à mettre de 1 à 5?
Alors, moi je mettrais un 2,5. Pourquoi? Parce que en fait, moi je trouve que, enfin, dans ce que vous avez expliqué, ça montre, enfin, dans la masterisation, beaucoup de difficultés, beaucoup d'aléas non maîtrisés, et à la fois elle me fait envie par moment, et d'autres fois elle me fait un petit peu peur, justement, par rapport
à en tant que joueur.
En tant que joueur, ouais. Alors en tant que joueur, je mettrais peut-être 4.
je suis assez d'accord avec toi. C'est ce que dis.
C'est la grande chasse. Tu y mettrais combien?
Ça me part.
Je ne me prononcerai pas.
En termes d'attente, je lui mettrais 5.
Je mets 69.
Marrez-vous, bande de cons. Donc, nous allons passer à la merci insurgissant, donc à la suivante. Fox, des sprites, il y en a un qui veut prendre la main avant l'autre ou...
Ouais, c'est bon, ouais.
C'est bon pour toi, Fox ?
Yes.
Donc, petite pause, comme ça, ça me permet de savoir quand est-ce que je coupe. Donc là, nous allons partir. Alors, parmi celles qui sont pas connues, il y en a quand même une qui est censée être très très connue. Je pense que c'est une campagne qui fait peur au niveau de la maîtrise, parce que c'est... une campagne, vraiment une bonne campagne, surtout elle a une époque où on joue pas forcément beaucoup. Et donc je vais vous laisser, il est quelle heure? Attends, je prends le chronomètre, il est 22h37, donc Fox va donc nous décrire de... À toi Fox.
Bien, bah merci, alors je vais essayer de tenir 10 minutes. Alors, pour on va quitter les années 40 pour passer à une autre époque, 50 ans après, on est à la fin des années 90. Alors, je pense que pour déjà bien imaginer l'héritage Greenberg, grosse campagne sortie dans un Casus Belli hors série de mars 98 pour être précis. Il faut se remettre un peu dans l'époque, donc fin des années 90, X-Files bat son plein, c'est la série du moment, en particulier pour tous les fans de fantastique, avec cet aspect effectivement conspiration, FBI dont on verra l'importance dans cette campagne. Twin Peaks, c'est pas si loin, et là encore, je pense qu'une partie de l'inspiration est totalement assumée, ou alors c'est parce que dans notre inconscient collectif, elle est tellement présente qu'on la sent en travers les lignes. Lost Highway, peut-être aussi, qui ont vraiment marqué les esprits, et je pense aussi grosse inspiration qu'on ressent à la lecture de l'héritage Greenberg, Seven. C'est crade, c'est glauque, c'est très pessimiste, je dirais que tous ces adjectifs correspondraient très bien à la campagne dont je vous parle. Alors déjà, premier constat lorsqu'on rouvre ce vieux magazine, on est sur 34 pages en comptant les aides de jeu, ce qui, pour tous ceux qui connaissent le Casus Belli de cette époque, est énorme. On est vraiment déjà sur un format bien plus important que celui qu'on rencontre habituellement. Alors tout simplement parce qu'il y a déjà un effort de contextualisation autour de tout ce qui est organisation fédérale, sur une partie de la famille Greenberg, et sur la ville de la Nouvelle-Orléans, et ensuite le gros morceau, cette campagne répartie en plusieurs actes qui vont nous entraîner dans des enquêtes, comme j'ai dit tout à l'heure, à la Seven, menées par une équipe Blue Beat de FBI, qui vont rapidement comprendre que dans ce monde ils sont pas grand chose et que la devise de Fox Mulder et Trust No One est totalement d'actualité au sein de cette campagne. Première chose, lorsqu'on retourne les pages, on se rend compte de la magnificence des illustrations hyper immersives qui étaient signées Bitler, dont à qui on devait déjà à l'époque l'écran magnifique de Chill, pour ceux qui s'en rappellent, cette femme allongée à moitié nue avec des taches de sang un petit peu partout. Et ben là, on est à peu près dans le même ton, bien sûr, en noir et blanc. Et rien que la première illustration, celle d'un portrait de famille, avec une femme à moitié décomposée dans un fauteuil roulant, ou au moins sur une chaise, attachée avec une corde, et toute sa famille de dégénérés tout autour d'elle avec des armes, montre le fond dans lequel on va jouer. Et là, une nouvelle inspiration arrive clairement, Massacre à la contre-sonneuse. Bref, ça sent le ton, on sent le ton, c'est pas très cthulien, ça il faut l'admettre. C'est assumé, hein, puisque d'ailleurs cette campagne est proposée aussi pour le monde des ténèbres. Malgré tout, on attendra le pitch final pour se rendre compte que là encore, les bouts de tentacules peuvent apparaître de manière assez modernisée par rapport aux années 20 et de manière beaucoup plus pernicieuse, avec un certain Monsieur N. Alors en quelques mots, pour Greenberg, on peut dire FBI, on va le voir tout à l'heure, corruption, à la fois humaine mais aussi la corruption des organisations, l'horreur absolue sur nombre de parties, qu'elle soit dans la confrontation avec certains humains, qu'elle soit dans les découvertes que l'on peut faire au travers certaines photos ou certaines relations, la pédophilie est par exemple clairement mentionnée ou des choses comme ça, donc on sent rapidement des fois mal à l'aise. Et bien sûr, un petit aspect aussi un peu onirique, avec des visions qui peuvent submerger nos pauvres investigateurs. Alors pour parler du FBI, ben le FBI sera totalement présent sur l'ensemble de cette campagne, donc il faut l'aimer. Bon, à l'époque tout le monde aimait le FBI, hein, tout le monde voulait de sortir avec Scully et puis foutre un coup de pied à Mulder au cul. Donc on commence dans le FBI avec une introduction, on est à Quantico, on remet des diplômes et la première mission est une mission un peu bizarre d'ailleurs, puisqu'on va nous demander à ces pauvres bleus agents du FBI.
Attends, t'as été un peu coupé quand t'as présenté la première mission.
Oui, donc c'est une mission un peu bizarre, puisque c'est un baptême du feu très particulier. On va leur demander, Blobit, de surveiller un sénateur influent dans l'État, donc ça, ça montre quand même que quelque chose ne tourne pas très rond, puisqu'on va leur demander de surveiller à Washington DC, le sénateur d'Alabama, sûrement pour des suspicions de fraude ou de magouille. Un très mal introduction.
Je sais pas, les autres ça coupe ou pas aussi?
Non.
Ah, ça coupe pas? Bon, alors, c'est juste chez moi alors, impec. Continue, excuse-moi Fox.
Donc on va retrouver Greenberg allongé dans sa baignoire, les veines coupées, et une peau particulièrement rougie, que nos pauvres investigateurs n'ont pas été particulièrement brillants. Et c'est très rapidement, sans trop d'explications, à part qu'on leur demande d'oublier l'enquête qu'ils viennent de faire, trouver la Nouvelle-Orléans. Alors la Nouvelle-Orléans, si on imagine beaucoup de choses, on est avant Katrina. Mais cette ambiance, le vaudou, les bayous, et puis toute cette ambiance telle qu'on peut la voir dans des James Bond, Live and Let Die, des choses comme ça, qui... Mais là, ça se corse. Pourquoi ? Parce qu'on va leur demander de mener quasiment de front difficile, pourtant, ce qui semble pourtant différent, et pourtant, à la fin, ils vont se rendre compte qu'elles sont particulièrement complémentaires et que les ramifications autour de ces enquêtes... du simple incendie criminel sur lequel ils doivent enquêter, de cette vol de poche de sang dans un fourgon. C'est bien plus complexe, c'est bien plus dangereux, et ça va être un final particulièrement détonnant au plus profond des bayous de la Nouvelle-Orléans. Deuxième mot que j'ai mentionné, c'était corruption. Alors là, c'est sous-jacent, tout le temps. Ça sera dans les indices que les gens trouveront, avec des photos d'élus dans des positions parfois particulièrement désavantageuses et particulièrement glauques, des magouilles à tout va. Dans la corruption, on pensera bien sûr aussi à Lafonsky, dont je vais parler tout à l'heure, et qui fait partie des personnages haut en couleur, et on fait peur. Et surtout le final à la Jamaïque, qui va être assez complexe à mener, mais qui peut, à mon avis, vraiment foutre les pétoches si c'est bien mené. Alors bien sûr, j'ai parlé aussi d'horreur, bah ça, cette horreur, vous la trouverez à tous les instants, avec une grosse mention sur l'assaut dans les bayous de la maison et des souterrains de la famille Pronsky. On est dans la pure ambiance massacre à la tronçonneuse, ça c'est évident, c'est glauque, ça fout les pétoches, ça peut être très mortel, et ce qu'on trouvait en particulier certains indices comme l'album de famille, avec toutes les personnes qui ont pu passer entre leurs mains et souffrir, avec des photos d'ailleurs qui peuvent faire penser à Seven et puis à ce rituel de la paresse, mes souvenirs sont bons, est totalement dans l'esprit. Et puis il y aura aussi des visions particulièrement horribles, je pense au particulier au meurtre des Babits, vraiment à la Seven, avec cette personne qui se retrouve avec je ne sais combien de grammes, de centaines de grammes de pop-corn dans le bide, hein, pour pouvoir effectivement mourir étouffé. Autre aspect assez intéressant, c'est cet aspect vision qui sera aussi des pistes, heureusement, je dirais même des pistes des fois salutaires pour nos investigateurs. Et là, en particulier à des visions un peu particulières, et là, la référence à Twin Peaks est assez évidente, avec le rappel de l'agent qui était le mentor de Dale Cooper, qui est un personnage central dans Twin Peaks, avec le cas d'un agent qui a disparu, Neil Berger, et qui sera aussi un moment assez fort de cette campagne. Bon, alors je reparlerai pas de la fin, elle est un peu difficile, même si elle m'avait un peu laissé quand même sur ma fin, même comme si je vous le dis, elle pouvait être vraiment détonnante, mais parce qu'il faut là encore avoir des joueurs peut-être qui soient vraiment hyper proactifs pour pouvoir en faire quelque chose de fort. L'ambiance sombre et de conspiration à Washington, et puis l'ambiance sombre dans les bayous et à la Nouvelle-Orléans qui est vraiment dans le ton. En gros, une ambiance extraordinaire, un scénario difficile à mener, un scénario difficile à jouer, mais à mon sens qui peut laisser des souvenirs impérissables à la fois aux gardiens et aux joueurs qui l'auront vécu. Voilà.
Merci Fox. Il y a juste un truc là qui me pop à la tête. Bon, c'est du méga spoil, hein, c'est normal. Mais vos joueurs vont jouer des zombies. Je me trompe pas, c'est dans ce scénar-là. C'est assez énorme. Je me rappelle de la tête de mes joueurs se réveillant avec le mec... le mec de la médecine légale, le scalpel à la main, prêt à leur ouvrir le bide. Voilà, c'est juste parce que je me rappelais que c'était c'était un moment que j'avais fait jouer qui était hyper glauque.
Messieurs, ouais, avez-vous, final, ouais.
Avez-vous quelque chose, des questions, des remarques? Moi j'en aurais aussi, mais allez-y.
C'est énorme ça, du zombie.
Oui, alors c'est une des parties. Le fait est que ce scénario, enfin cette campagne-là, il y a franchement par rapport par exemple, on parle du Royaume des Ombres ou même de La Maison Reste Ouverte, peut y avoir des difficultés. Honnêtement, ce scénario-là, c'est un peu du caviar. La seule difficulté que je dirais, c'est que c'est pour beaucoup le cas de ces scénarios-là, c'est que on est en 1990. Donc on n'est pas en 1920, mais on n'est pas à notre époque. Et je sais pas ce que t'en penses Fox, mais autant le jouet quand il est sorti c'était pipeau, les molos font du ski, bonne nuit les petits, un super yoli, autant là en 2014 c'est un peu plus complexe, je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, Fox, je suis assez d'accord avec toi, ouais. Bon, il faut quasiment assumer le fait de jouer fin des années
90. Je comprends pas trop
la difficulté. Enfin,
comme on est en estimant qu'on est à peu près tous du même âge là autour on ben a tous connu les années 90. Enfin moi j'ai joué en tant que joueur ce scénario là où tu vois réellement la difficulté enfin là moi je sais bien quoi.
Bah 1990, tu vois, où est-ce qu'on en est des portables, téléphones portables, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on a eu des gros trucs genre le 11 septembre, ouais, qu'est-ce qu'il y a eu comme guerre, les choses récentes, tu vois, 90 c'est la première guerre du Golfe, hein, si je me trompe pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a où on en est dans la, qu'est-ce que où on en est sur Internet, c'est est-ce que voilà, enfin il y a ok, il suffit assez facilement de te mettre dans l'esprit d'un X-Files, et là tu vois comment ça se passe. Les vieux ordinateurs sont un peu tout pourris, pas vraiment de base de données partagée et tout ça, mais c'est la difficulté de jouer à Delta Green non réactualisé, quoi. C'est ouais, intéressant c'est parce qu'ils ont moins de moyens, mais c'est plus compliqué, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, tout à fait. C'est vrai que ouais. Alors ouais, le fait que tu soulèves ça, maintenant ouais, ça me revient un petit peu pour l'avoir joué. C'est vrai que souvent, nous joueurs, on voulait savoir, on se croyait un petit peu en 2014, quoi. Donc on croyait avoir facilement, pouvoir aller chercher des informations sur Internet et des choses comme ça, quoi.
C'est pour ça que les références qu'a donné Fox ouais. sont très justes. C'est-à-dire que tu te remets, enfin, Dale Cooper dans Twin Peaks, il a un magnéto, quoi. Quand tu fais des recherches au cadastre et tout ça, c'est encore des recherches, genre sur ordinateur, mais ça va pas être partagé entre les différents counties ou des trucs comme ça. C'est pas infaisable. Mais ça demande de se dire, voilà ce qui s'est passé autour.
Après, on peut estimer être en 2014, on peut estimer qu'on être un petit coup d'avance dans ces domaines-là, quoi.
Ouais.
C'est ce que je veux dire.
Tout à fait. C'est le côté. Je sais pas pourquoi, mais chez moi ça coupe à mort. Je sais pas si chez vous ça coupe.
C'est moi.
Ah, fais chier. Ah, attendez, je vais essayer de désactiver certains trucs. Ça va être ma femme qui surfe sur Internet.
Regarde le
Regarde le foot, la tienne.
High def. Ah non, pas la mienne, sinon je le fous dehors.
Attendez, je vais essayer de... c'était faux, ils m'ont obligé à le dire. L'héritage Greenberg, je vais vous laisser en parler, comme ça je vais régler mes problèmes de coupure. Des sprites ou sergissants, ou allez-y, n'hésitez pas.
En fait, moi, ce que vous dites, moi, c'est quelque chose que j'ai de base avec Delta Green. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à en dehors des années 30. Ouais, comment vous arrivez à gérer justement cette technologie, etc. De manière générale.
Je vais laisser les personnes adéquates répondre à cette question.
C'est délicat, mais en réalité, pour moi, il faut que tu te poses des bases. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans une autre époque, donc les gens s'en rappellent. Déjà, ça dépend vachement des gens avec qui tu joues.
Ouais, non, voilà.
Vous m'entendez pas? Ah putain, fais chier.
Ah si.
Ah ouais, je suis haché.
Quand tu dis des grossièretés, on t'entend, mais après...
Arrêtez, il y a un filtre. Ah, attendez.
Un micro-sélectif, c'est bien.
Dites pas de trucs intéressants, je vais juste régler, je couperai cette partie-là. Shit. Bloody motherfucker.
Mais moi, juste l'autre question, tant que vont avec son petit problème, l'autre question qui me venait, c'est mais pour joueur, je pourrais pas trop répondre à ça, mais est-ce que ça serait problématique de régler ce problème-là, justement, des années 90, en jouant la campagne en 2014? Est-ce que ça poserait un réel problème
Alors, déjà, alors, je vais répondre à pour moi.
Moi, je connaîtrais plus, c'est pour ça que...
Ouais, l'apport technologique il change pas grand-chose.
Ouais, voilà, c'est même pour au contraire.
C'est-à-dire que d'ailleurs quand tu te retrouves parce qu'il faut pas oublier qu'aux États-Unis des fois même la couverture téléphone portable etc. est pourrie et l'accès à l'information lorsqu'il y a, c'est encore pire que dans les années 20. Et donc, l'aspect rassurant d'avoir certaines données très rapidement lorsque tu te retrouves confronté à une question où tu n'as plus du tout accès, c'est encore plus flippant pour eux. Et moi, j'irai encore plus loin, c'est que, vis-à-vis bah, du Mitch, je considère que c'est pas obligatoirement les nouvelles technologies qui t'aident. Hein. Ça sera pas vraiment Internet qui te le retrouvera, ou alors que le Mitch a complètement pris une ampleur qui est bien plus importante que celle-là. Moi, c'est toujours dans les années 90, mais il y avait les astres sont propices, justement, scénario autour des nouvelles technologies de l'époque et qui permettait justement de jouer avec le mythe autour de tout ça sur les fractales, en particulier l'informatique ou plein de choses comme ceci
et les spectateurs communiquent avec des bebop. D'accord.
Après Seb, toi, dans les années 2000 parce que ça peut être super intéressant et que, à mon avis, la Nouvelle-Orléans est bien plus glauque dans les années 2000.
C'est
Katrina, Katrina est passée par là. T'as tes
cartes pas faux,
complètement
ouais.
perdues, détruites. La pauvreté a explosé là-bas. Et que l'aspect glauque que tu pouvais rencontrer dans l'héritage Greenberg, tu peux encore plus. Et donc, la famille Kransky a encore plus de force.
Ouais, c'est pas faux. Ouais.
Ouais, ouais. Et du coup, ouais, tu peux. Du coup, tu les limiter en termes de technologie, quoi, parce que à cet endroit-là, voilà, quoi. On peut imaginer que tout ce qui est connexion autour d'Internet, ou choses comme ça, tu peux les limiter si tu le souhaites, quoi. Si ça, si ça a un intérêt, hein,
Ouais, on cherche ADN qui arrive un peu.
Non, ouais, voilà,
Ah, putain, ça coupe pas, je sais pas si vous êtes encore en train de parler, c'est bon?
Après, bon. C'est vraiment de travailler sur voilà que j'ai donné et qui donne vraiment la patine de Greenberg. Et donc, si les gens sont vraiment dans ce trip-là et qu'on est bien d'accord sur ça peut donner quelque chose de tonnerre.
Parce que c'est... Enfin, de ce que vous m'entendez bien ou pas, là?
Ah, nickel.
Ça va? Donc, ouais, parce que le truc, c'est que... C'est le gros intérêt de cette campagne, c'est que c'est un gros mélange. C'est-à-dire, c'est ce qu'a dit Fox, c'est-à-dire qu'ils vont commencer Bleu-Bit dans une grosse agence américaine, puis ça va monter en puissance, puis ils vont lever une espèce d'affaire un peu politico, on sait pas trop quoi, enfin des ramifications un peu bizarres, puis il y a cette famille derrière qui semble manipuler un peu tout le merdier, et puis finalement on va tomber sur une espèce de, entre guillemets, classique maison au fond des bois. Et moi, je me rappelle que, justement, à cette montée en puissance, ils avaient franchement hésité à aller mener l'assaut contre la maison au fond des bois, quoi. Et en plus, c'est vraiment une scène à préparer parce que, je sais plus si c'est dit par le scénario, mais moi, c'est eux qui avaient vraiment monté l'assaut. C'est eux qui avaient fait le schéma tactique et tout ça. Et bon, bien sûr, comme c'était des pétochards, ils envoyaient les premiers mecs. Et là, vous utilisez tous les ressorts des films d'horreur. C'est-à-dire que le premier mec qui part, on entend un cri, on voit sa lampe torche gicler à 50 mètres avec du sang couvert, du sang partout, et puis on l'entendra plus. Il faudra envoyer une carte à sa maman. Donc, et puis c'est, enfin, derrière, faut faire attention parce que c'est une campagne qui est quand même assez violente. C'est-à-dire qu'ils vont s'attaquer à une grosse famille. Ce qui est assez intéressant, c'est que après être entré dans le FBI et dans une grosse agence, ils vont s'imaginer avoir une carte blanche pour faire n'importe quoi. Et ils vont tomber sur beaucoup plus fort qu'eux. Donc c'est vraiment très intéressant parce que le rapport de force évolue pas mal, quoi. Ça se modifie. Alors que moi je me rappelle, suite au premier scénar, c'était sûr de leur coup, quoi. C'était bon, FBI, tout le monde à terre, quoi, à chaque fois qu'ils arrivaient quelque part. Et c'est vraiment bien foutu, cette espèce de ramification, de pas savoir si ça s'étend juste dans les affaires de notre monde ou si ça va un peu plus loin. Et puis le côté vaudou était vraiment excellent avec le comté zombie. C'est vraiment une campagne très très glauque et qui fait partie des choses à jouer, je trouve. D'autres questions ou remarques?
Je vais passer en mode avocat putassier et je vais vous demander, mais pourquoi est-ce que vous me présentez une campagne pour Cops?
Alors, c'est pas faux. Vas-y, Fox. Tu veux lui répondre?
Moi, je connais pas Fox. Du moins, je connais pas Cops, donc je suis pas emmerdé avec ça.
Ben, disons Berlin 18, alors. Mais Berlin 18, un peu old school, quoi. Enfin, en gros, jusque-là, on n'a pas parlé du mythe ni de l'horreur lovecraftienne dans cette campagne. Qu'est-ce qu'il y a à en dire?
En fait, tu découvriras à la fin. Donc, en fait, c'est un peu la suite des masques, si tu veux comprendre. Derrière tout ça, tu vas découvrir quels sont les nouveaux moyens de corruption qui peuvent être employés par tous les sbires à la botte de Nyarlathotep. Dans un monde vraiment contemporain. Bon, je sais pas si toi tu te rappelles de ça, même Seb, hein, mais c'est vraiment ça.
Je vais pas faire mon chien, mais on n'est pas dit qu'on arrêtait les masques.
Marre,
hein,
c'est...
Désolé.
C'est clairement ça, c'est-à-dire que t'as raison dans le fond, hein, des sprites, c'est que c'est une enquête. Le seul truc, c'est que on va vraiment t'expliquer que la perversion des monstres et des horreurs cthuliennes, elle n'est pas juste genre on monte et il y aura la fin du monde. Ça peut être tout à fait quelque chose de tous les jours, avec infiltré dans notre société à tous les niveaux. Leur but, c'est pas forcément de tout détruire, parce que ils vivent de notre société, c'est un peu des sangsues. Et leur perversion fait que, enfin voilà, la campagne te fait croire finalement que ça pourrait tout à fait arriver à notre époque. Quand on découvre une nana qui s'échappe après avoir vécu 10 ans dans une cave enfermée par un mec qui lui a fait 3 enfants, tu vois ce côté glauque.
Il était très amoureux.
Voilà, exactement. Puis il avait perdu la clé. Il y a vraiment un côté très très sombre, très toi qui aimes bien les ambiances un peu. Je dirais un peu subversive. L'héritage de Greenberg, c'est tout à fait ça, en partant sur une enquête FBI classique. Donc c'est du cops moisi au fond, quoi. Et ça se termine par un assaut où d'habitude, ce qui est très intéressant, excuse-moi Fox, c'est que d'habitude ils sont tout seuls les investigateurs et c'est toujours le merdier. Et là, honnêtement, ben moi, ça les a un peu scotchés d'avoir toute une armada de mecs super armés qui leur disaient « Bon, moi, je me mets où ?» Ils étaient tout perdus, quoi. Au début, ils se sont dit « Ouais, super, il y a plein de monde. » Puis quand je leur ai dit « Bon, vous faites le plan d'attaque », ils ont galéré leur race, quoi. « Alors, Maurice, tu attaques par le point A. »« Oui, mais le point A, vous avez dit que c'était là, et c'est il y a Marcel qui a dit que c'était là. »« Oui, non, alors, retourne le plan. » Franchement, c'est... Enfin, le côté policier mélangé discrètement, parce que c'est pas du gros Cthulhu qui tâche, c'est vraiment du Cthulhu insidieux, quoi.
Je l'ai pas vécu jusqu'à la fin, hélas, mais dans la première partie, tu te demandes quand c'est que ça va tomber, puis ça te laisse t'as toujours une sorte de pression sur toi, tu sais jamais trop à quel moment, mais tu l'attends, quoi, mais ça te met un peu dans une sorte d'impatience et ça te met une sorte de pression, quoi.
Je sais pas quand est-ce qu'on va sortir la carte de Cthulhu, quoi. Tout à fait, ouais.
Ouais. Et puis ça arrive à mettre une ambiance assez pesante, quoi, finalement.
Il y a les manipulations, donc on se dit, est-ce que c'est uniquement politique? Après, il y a le sang qui est détourné. Est-ce qu'on se dit, ah, ça se trouve, c'est qu'une histoire de vampire. Donc c'est ça te fait un peu fureter un peu à droite à gauche sans vraiment donner.
Vas-y. Ce qu'il y a, c'est que ça c'est vraiment c'est imprégné jusque bah, enfin là ça va spoiler quoi, mais dans la première partie c'est imprégné jusque dans tes rangs quoi, dans les donc moi il arrive à un moment donné où bah, par exemple dans la première partie je sais plus comment il s'appelle l'agent qui s'occupe un petit peu de nous accueillir et tout ça, de nous guider un petit peu
Marcus.
Ouais, peut-être que c'est ça.
Marcus Kestor.
Ouais, voilà.
Mmh. Ah, c'est ça. Enfin,
et en fait, mais moi, je sais pas, je le sentais pas bien, ce mec, quoi. Mais bon, parce qu'il faisait un petit peu, enfin, nous, dans, il faisait un petit peu branleur, quoi. Il avait ça, nous, et, enfin, il nous l'avait décrit comme un, enfin, c'était, déjà, il était un petit peu vieux, et puis il avait sa chemise hawaïenne, enfin, voilà, quoi, ici. Et puis bon, enfin bon, il nous avait amené dans des endroits, puis il nous accompagne. Enfin bon, je le sentais pas trop. Et puis bon, sur le final, c'est lui qui nous indique d'aller chez les chez la fameuse famille là, dans la maison. Hein. Et donc et puis là, ben finalement, bon, il est avec nous quoi. Donc tu lâches un petit peu l'affaire, tu lui fais confiance, et puis finalement, tu te fais baiser la gueule quoi. Et ça c'est trop bon, tu dis oh l'enculé. Quand tu descends là dans la petite maison, enfin la petite cabane au fond du jardin là, que tu descends dans les sous-sols et que lui il est derrière, il t'attend, et puis finalement il ferme la trappe en ferraille sur ta gueule, que tu peux plus t'échapper, tu dis oh le salaud. Et ça ouais, ça c'est bon quoi.
Et
ça
contrairement
derrière
ouais, ouais. Et puis contrairement à ce que moi j'ai dit sur la maison reste ouverte pendant les travaux, là il y a vachement de documentation quoi sur le Cajun, le Vaudou, la famille Greenberg, je sais même plus, enfin il y a vraiment des aides de jeu de folie quoi. Les agences américaines, enfin il y a vraiment tout, c'est tournant quoi, c'est
non c'est vraiment moi c'est enfin pour l'avoir joué une partie en tant que joueur, ça m'a donné envie de le jouer en tant que MJ et c'est vraiment très très bon quoi.
Alors en plus bon on l'a pas dit, je crois pas que tu l'as dit Fox, mais spéciale dédicace à Mehdi Sami, hein. C'est lui l'auteur de
tout à fait.
De ce scénario-là, et enfin, je sais plus lesquels il a fait, mais c'était un super, super auteur de scénario pour Cassius Belli, Mehdi Sami, c'est absolument, absolument génial. Donc, j'en déduis d'ailleurs, j'ai pas vérifié, mais j'en déduis qu'elle est toujours disponible sur TOC, celle-là.
Non, parce que non. Moi justement, j'ai pas réussi à la prendre sur TOC parce que justement comme ça m'avait, j'ai pas pu la finir en tant que joueur, donc un peu frustré. Donc j'ai dit bon, faut que j'aille voir ce qu'il en découle quoi.
Et, attends,
je
putain.
Pas avec toi, t'inquiète pas. Tu me donneras des points de scène la prochaine fois.
Non.
Et du coup, j'ai pas pu
arriver à trouver assez facilement. Donc on peut la retrouver très facilement, ça.
C'est leur série hors série numéro 20, au cas où.
Ouais.
Mars 98, comme disait Fox.
Mmh. Ah oui, parce que je crois qu'il y avait... Attends, pourquoi il n'y est plus?
Ouais, j'ai pas, ouais, tu vois, je l'avais, j'avais pas pu le télécharger. Et je l'ai lu.
Ah non, je sais plus.
Je l'ai jamais lu.
C'est parce que j'ai dû me mettre mal avec quelqu'un. Cyril Dojan? Non, tu m'étonnes. Je sais plus. Non, mais je sais pas pourquoi il n'y est plus d'ailleurs. C'est bizarre ça. Enfin, le fait est qu'on peut toujours essayer de la récupérer, mais en plus, oui, il y a la loupe.
Faut trop chercher, c'est tombé dessus.
Ouais, voilà. Donc, le truc, c'est que ça fait partie. Enfin, moi, je me rappelle qu'il y a eu quelques grosses scènes, hein, parce que, enfin, si vous avez des joueurs, c'est un peu comme à chaque fois, mais si vous avez des joueurs, par exemple, qui aiment bien les inspirations qu'a cité Fox, moi j'avais des joueurs qui étaient super fans de X-Files, on s'est retrouvé avec des poursuites sur les autoroutes américaines, un peu de folie quoi, c'était... je crois que j'avais même sorti un hélico pour leur tirer, avec un mec dedans pour leur tirer dessus, enfin c'était... je me demande même s'il n'y avait pas eu un lance-roquette à un moment donné, enfin c'était parti pas mal en cacahuète, ouais, parce que faut voir qu'en face ils ont des gros moyens quoi, c'est pas un illuminé tout seul avec une bande d'une vingtaine de sectateurs qui sont débiles à poil. Non, c'est une famille bien établie et leur truc ça tourne depuis un moment avant que les investigateurs viennent les faire chier. Bon bah messieurs, d'autres questions, d'autres remarques? Nine?
Moi, j'ai juste une petite question, savoir si ça fait partie, mais je crois que j'en avais déjà discuté peut-être avec Fox, et je crois que c'est pas le cas, mais enfin bref, je vais poser la question quand même. Nous, en début du scénario, on avait joué quelque chose qui mettait... enfin, même si nous avions fait jouer ça d'une manière qui mettait vraiment l'accent sur le côté débutant, enfin, la bleusaille du FBI. en fait, on avait joué ça. Il nous avait fait faire une première mission qui était en fait une mission d'entraînement.
Non, ça fait ça moi aussi.
Et c'était vraiment c'est parce que vraiment il nous avait mis l'ambiance et tout ça. On se croyait vraiment dans une vraie mission, flingue à la main. On était rentré dans un immeuble. Fallait je me rappelle plus trop, mais fallait intercepter quelqu'un. Donc on était rentré tout ça quoi. Et finalement c'était un piège quoi. Et puis ils nous attendaient derrière une porte. Et puis bon, mais bande de crétins. Passer bientôt l'examen. Et puis vraiment pour nous faire sentir qu'on était vraiment des débutants. Et on avait commencé le scénario comme ça quoi. Et ça l'avait bien fait, quoi.
C'est une partie optionnelle au départ de la trouve. Hein.
Ouais, la mise en jambe, ouais.
D'accord.
C'est bien de la garder, ça met vraiment dans l'ambiance.
Et puis dans ces cas-là, tu vas sur et Internet et tu trouves un bon plan d'un gros bâtiment officiel. Moi, c'est ce que j'avais fait. Et, j'avais pris un plan de bâtiment officiel et en réalité, je leur avais dit qu'il y avait une prise d'otage, je sais plus trop quoi. En réalité, ils sont censés ne découvrir que c'est un exercice qu'à la fin.
Ah d'accord, bon non.
Allô ? Je vous entends plus. Allô, allô ? Merde. Je vous entends plus du tout.
Choupette. Putain.
Hack.
D'accord.
Allô ?
Oui.
Il y a une coupure, non ?
Ouais, c'était violent. Hein.
Ouais, ça a fait super bien. Et puis Rocco sans... Ouais, alors là...
Ouais, non, je sais pas ce qui s'est passé. Bon. Là,
qu'est-ce qui est vert ?
C'est chez moi, normalement.
C'est,
c'est sur Rilly. Bon, bah, de toute façon, ça va nous faire passer au dernier, parce qu'il est déjà 23h10. Donc, bah, merci Fox aussi.
Pas de
donc... Ah oui, pardon. Ouais, bah moi... Rien que pour le souvenir, 4,5. Fox. Pardon,
ah oui, pareil.
Sprite.
Ouais, bon, tout à l'heure, je faisais ma pupute, mais c'est vrai que Greenbird, c'est une excellente campagne, et j'y jouerai ou je la ferai jouer vraiment un grand plaisir. Je lui mets 4 sans hésiter.
C'est agissant.
Moi, je suis pas super fan de la période, mais j'ai envie de regarder ce que c'est.
D'accord. Et Virtua Seb
4,5. J'enlève 0,5 parce que j'ai pas fait la fin. Donc je la connais pas, mais sinon 4,5 pour ce que j'ai fait. Ouais,
pour l'orthographe.
Ouais, mais tu vois, au moins Seb, celle-là tu l'as commencé.
Oui.
Alors, ça c'est bien passé. Là, ça c'est.
Fox, c'est salopard.
La phrase, peut-être.
T'imagines, Virtua Seb, tu lui mets 4,5 parce que t'as pas vu la fin, et la fin, franchement, tu mets 5,5 dans ces cas-là, quoi.
Ah ouais, carrément, d'accord.
Ah non, parce que la scène de fin, elle est énorme.
D'accord. Non, mais enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que bon, moi, sur ce que j'ai joué, il y a pas eu de mythe quoi, enfin j'ai pas vu de créature rien du tout, mais j'ai adoré parce que voilà quoi, enfin non, c'est très très bien.
C'est bien foutu comme scénar, c'est assez compliqué mais c'est bien foutu. Bon,
et ça monte très finement aussi.
En plus oui, ouais. Et c'est ce que disait Virtua Seb, c'est que tu sais pas quand est-ce que ça va tomber sur le coin de la gueule.
Tu l'attends, tu sais pas quoi.
Moi je me rappelle au début ils se demandaient si c'était pas carrément leurs employeurs au FBI qui trempaient dans quelque chose. Enfin c'était, ils ont galéré des joueurs, ils savaient plus trop à quel sens jouer, comme tu disais Fox, à qui faire confiance quoi.
Mais bon. Moi au début je faisais pas confiance quoi aux détectives qu'on parlait, et puis les autres ouais enfin ils se méfiaient pas trop, et puis ils me disaient mais c'est bon lâche la bride enfin au moins par rapport à lui quoi, et puis quand j'ai lâché la bride on s'est fait...
C'était la dernière erreur, donc nous allons passer à la dernière campagne qui devait être donc découverte ce soir, et c'est notre ami Desprite qui une fois n'est pas coutume sort des sentiers battus, notamment pour avec ses chaussures à gomme excellente nous emmener vers un autre jeu, N'est-ce pas des sprites? Il est 23h14, je te laisse donc la parole.
Ok, je vais vous parler de la campagne qui s'appelle l'affaire Armitage. Alors à la base, c'est une campagne qui a été prévue pour Trail of Cthulhu, donc l'autre déclinaison du jeu Cthulhu ressorti et traduit par le 7ème cercle. Alors Trail of Cthulhu, pour couper court, c'est une campagne qui s'adapte très 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 facilement au mode sans détour système Chaosium. Donc il y a vraiment des capillarités. C'est un truc qui est sorti relativement, qui est passé relativement inaperçu et sorti en 2010. Que dire d'autre? C'est une campagne qui est relativement petite dans le format, enfin courte, qui fait 126 pages. Illustrations comprises. D'ailleurs, à ce sujet, la maquette est vraiment intéressante avec des illustrations à mi-chemin entre la photo et la gravure réaliste. C'est très convaincant, très suggestif. Alors maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de dire, l'affaire Armitage, c'est presque pas une campagne au sens où on l'entend habituellement. C'est plutôt l'illustration d'un concept. Même d'une définition que j'aime bien sortir de temps en temps, qu'on trouve dans un jeu de rôle qui s'appelle, alors laissez-moi me souvenir, ouais, ça me reviendra, le bug, qui dit que pour certains, le jeu de rôle, c'est en fait, enfin la manière dont on peut faire jouer efficacement une partie de jeu de rôle, c'est de la penser en termes de jeu de basse. Oui, c'est Unknown Armies. La définition qui est donnée dans ce jeu de rôle, c'est que une bonne partie de jeu de rôle, c'est une partie qui se fait comme un buff de jazz, dans lequel le meneur de jeu va commencer à lancer une idée, très simple. Et derrière, les joueurs vont rebondir là-dessus et, comme si chacun était un instrument, rajouter quelque chose pour finalement faire un ensemble cohérent. Et c'est aussi une manière de penser les campagnes et les scénarios centrés autour des joueurs et non pas autour d'une idée directrice clairement formulée. Par exemple, dans une campagne dont on a déjà parlé, pour ne pas la citer, les montagnes hallucinées, il est clairement déterminé dans l'ouvrage, dans la campagne, comment va se terminer la campagne, à peu de choses près, hein, à quelques virgules ou quelques variations près. Ce n'est pas le parti de l'affaire Armitage. Donc si vous voulez estimer ce que vaut l'affaire Armitage en termes de partie, en termes de jeu, je pense qu'il faut déjà commencer par ne pas la comparer à d'autres campagnes existantes, parce que c'est vraiment quelque chose d'inédit. Alors, comment vous expliquer ce que c'est? La campagne Armitage, je pense que la meilleure figure, la meilleure illustration, c'est de vous expliquer qu'il s'agit d'une boîte à outils, mais d'une boîte à outils avec des outils très performants et très spécialisés à l'intérieur. En gros, c'est une campagne dont la structure est pensée de manière entièrement modulaire. Il n'y a pas de fin écrite, il n'y a pas de milieu écrit, il y a juste une situation de départ qui est proposée. Alors vous me direz, mais comment tout ça tient debout? Parce que c'est informe, on peut partir dans tous les sens, je vois pas de quoi on parle. Alors malgré tout, il y a une ossature dans cette campagne. Il y a une sorte de squelette sur lequel le meneur de jeu va pouvoir agencer des concepts, des situations, des personnages, des lieux, des rencontres, des objets magiques, du Cthulhu, du mythe, des thèmes. Alors cette structure, c'est quoi? C'est un certain nombre d'aides de jeu qui se présentent comme des lettres, du moins des manuscrits. Et alors je vais vous faire le pitch de l'affaire Armitage. Les personnages, il y a plusieurs moyens de faire rentrer les personnages dans le jeu, soit on considère que c'est un groupe de jeu de personnages qui a aidé le professeur Armitage jadis, on peut aussi considérer qu'il s'agit de parfaits inconnus en trouvant des moyens pour les insérer. Peu importe. Le professeur Armitage, donc celui des œuvres de Lovecraft, dans la Nouvelle-Angleterre, un jour tombe dans un document d'étude sur un papier qui est assez alarmant, écrit de manière assez décousue par une personne visiblement agitée, qui parle de plein 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 de choses. C'est décousu et on a du mal à comprendre. ce document expose un futur apocalyptique dans lequel il est en train de se passer quelque chose, ou il se passe quelque chose de parfaitement abominable. Et ce qui est le plus troublant, c'est que ce document est écrit de la main du professeur Armitage. Il n'en a aucun souvenir. Donc, on est tout de suite dans une espèce de... Enfin, on a des thématiques qui sont posées. Le paradoxe temporel...
La folie, voyage dans le temps, Marty.
Le voyage dans le temps, tout à fait. Mais après, avec le spectre du « est-ce que le professeur Armitage est fou dans le monde contemporain ?» Ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un dans le futur qui se fait passer pour le professeur Armitage? Est-ce que c'est un faussaire? Enfin, toutes les hypothèses sont possibles. Et là-dessus, la campagne propose de rythmer le jeu en faisant parvenir ponctuellement aux joueurs ou à des personnes proches d'eux des documents qui proviennent eux aussi, enfin, qui prétendent provenir du futur. Et un tout cohérent commence à se former à la lecture de ces documents. De grandes thématiques, on y parle d'objets, on y parle de personnes qui existent vraiment à l'époque des joueurs, avec des lieux qui existent vraiment à l'époque des joueurs, on leur donne des conseils, on leur demande de se méfier de certaines personnes, il y a des hésitations, parfois on a l'impression que le professeur Armitage est en train de devenir fou et qu'il en a conscience et s'adresse à lui-même dans le passé. Bref, on est sur une espèce de mise en abîme qui vraiment donne le vertige. Et là, vous me direz, oui, comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber là-dedans ?
Alors, comment on fait pour ne pas tomber là-dedans ?
Très bonne question. Alors, tout simplement, en pratiquant le lâcher-prise. C'est-à-dire que c'est pas une campagne qui est donnée à tout le monde. Je pense vraiment qu'en l'abordant et qu'en commençant chaque partie, il faut accepter qu'on ne sait pas vers où on va aller. Et donc, il ne faut pas chercher à prévoir ce qui va, par nature, être chaotique et imprévisible. Un des thèmes principaux de cette campagne, c'est son aspect chaotique. Et vraiment, on surfe dessus. Aussi bien dans le flux d'informations qui viennent aux joueurs, dans l'attitude des personnages, que dans les entités qu'on rencontre, parce qu'il est bien sûr question d'entités comme Azathoth, le Roi en Jaune, Chimnigorath et d'autres. Et le MJ va pouvoir moduler les outils qui sont contenus dans cette campagne pour proposer une expérience de jeu à ces joueurs qui est réellement personnelle et qui est complètement en fonction de leur choix et de, on va dire, des envies du moment du meneur de jeu. Quels sont ces outils ? Alors là, on a du costaud. On a déjà beaucoup de passages en début de campagne qui expliquent, qui prennent un peu le meneur de jeu par la main, le gardien par la main, pour lui dire « Attends, n'aie pas peur, on va t'expliquer comment aborder chaque partie, comment aborder le document, comment les traiter. On va te résumer tous les indices particulièrement importants que les joueurs vont déceler dans les indices. Les liens entre eux. On va aussi t'écrire proprement l'aide de jeu d'une manière lisible à un endroit. Après, il y a beaucoup de conseils sur l'improvisation pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec ça. Il y a beaucoup de rappels sur l'époque et on répond vraiment à des questions qu'un MJ débutant ou avec de la bouteille peut se poser. Après ça, on a encore du lourd. On a 43 personnages qui sont proposés avec un truc que je trouve qui est inédit et qui est vraiment intéressant. Alors déjà, bon, bien sûr, ces personnages sont pas des personnages creux du type le flic du coin de rue. Ils ont tous une psychologie. Ils ont tous des petits tics de langage qui sont proposés, des tics d'attitude. Et systématiquement, on pioche dans ce qu'on a envie. Ils ont des noms et des noms de famille. Et selon le moment, on peut piocher un nom, un autre. Ce qui fait que on peut, d'une campagne à l'autre, on peut même imaginer faire jouer cette campagne à deux groupes frontalement et avoir deux expériences de jeu qui sont fondamentalement différentes. Et aussi, ce qui est intéressant avec ces personnages, c'est qu'on propose trois manières de les présenter aux joueurs. Une manière hostile, une manière amicale, une manière neutre. Et pour chaque proposition, on a un paragraphe assez conséquent qui décrit comment le personnage pourrait poser des enjeux aux joueurs, pourrait les assister, ou bien pourrait juste être une personne insaisissable, on ne sait pas trop... quelles sont ses motivations. Après, on a des organisations qui sont proposées, il y en a 12, avec aussi l'aspect, est-ce que l'organisation va mettre des bâtons dans les roues des joueurs, ou est-ce que l'organisation va l'aider. On a des lieux, en l'occurrence 22, bon, avec une présentation, enfin, c'est des lieux qui sont intéressants, on a des bases militaires, on a des cimetières, on a des églises, des terrains vagues, etc. Et bon, après, pour les MJ qui ont envie d'avoir un peu d'inspiration, on y propose systématiquement une description qui est inquiétante et une description qui est plutôt neutre, rassurante. C'est un peu inédit, ça peut donner pas mal d'idées. Après, on a aussi la même chose qui est proposée pour des objets magiques ou des grimoires. Donc systématiquement, sous un aspect modulaire, on a aussi la question de certaines entités sur lesquelles on a du mal un peu à se positionner à la lecture des documents. Par exemple, les énigmatiques frelons de Möbius ou les larmes d'Azathoth. Et on nous propose chaque fois, avec beaucoup d'intelligence, différentes interprétations possibles pour le meneur de jeu qu'il pourra lui-même reproposer à ses joueurs. Et enfin, on a 50 pages d'aide de jeu, vraiment conséquentes, avec des conseils sur la manière dont on peut les exploiter en jeu. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément donner 3 pages à 4 à des joueurs écrits en patte de mouche, avec des petites annotations et des dessins, en pleine séance de jeu, parce que ça casse le rythme. Donc on propose souvent des méthodes pour couper les séances de jeu et proposer les sets de jeu aux joueurs entre les parties. Suite à ça, pour ceux qui ont du mal à se localiser par rapport à l'intrigue, vers où avancer, quelle puissance, quelles entités on met en jeu, est-ce qu'on en met en jeu ou pas, à quelles interprétations données, il y a des propositions d'interprétations qui sont faites pour chaque document. Par exemple, on vous fait, en fait, on vous brosse un synopsis. Il y a un synopsis qui est proposé et qui se tisse à travers les différentes aides de jeu et qui est écrit, qui est rédigé. Donc, pour les gens qui seraient vraiment paumés, on a déjà une intrigue qui a été prépensée avec beaucoup de possibilités d'en dériver. Alors, je vais m'orienter vers la fin. Sur le retour de jeu que j'en ai, j'ai pas eu l'occasion à ce jour de faire jouer cette campagne. Néanmoins, je m'en suis beaucoup inspiré pour faire jouer quelque chose actuellement, enfin une campagne à des amis, mais je discutais toutes les semaines avec une personne qui la faisait jouer, et son retour m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué. Et celui comme en ont fait ses joueurs était aussi saisissant. On avait vraiment l'impression qu'il y avait un sens à ce que les joueurs faisaient, beaucoup plus que dans d'autres campagnes. C'est eux qui orientaient clairement l'intrigue. On pouvait rebondir sur leurs intuitions qui étaient exprimées à table, ce qui donnait vraiment une autre dimension au jeu. Et ce qui avait de génial, c'était cette espèce de notion de challenge à chaque partie, pour le meneur de jeu, comme pour les joueurs, enfin, surtout pour le meneur de jeu. Il ne savait pas vers où il allait être amené par ses joueurs, mais s'il connaissait un petit peu les outils du moment, donc dans l'espace géographique autour des joueurs, les personnages qu'ils étaient censés rencontrer, les aides de jeu sur lesquelles ils allaient tomber à une ou deux séances près, il y avait vraiment un plaisir de manipuler tout ça pour proposer quelque chose qui avait du sens. Et c'est une campagne, enfin la personne avec qui j'en ai discuté y a fait jouer pendant 1 an et demi sans essoufflement, ce qui m'a vraiment marqué, avec un final vraiment grandiose, et beaucoup de petits exotismes du type session de jeu Delta Green, passage éclair dans les contrées du rêve, c'est pour toi, Vonve, et notamment finish apocalyptique dans un monde futuriste, enfin un bref flash, c'est quelque chose dont la dimension m'a vraiment saisi. Voilà. Alors, les inconvénients, les avantages immédiats, en tout cas ceux que je retiens, avantage, c'est une campagne qui est extrêmement modulaire, qui est rejouable, je vais pas dire à l'infini, mais extrêmement rejouable. Et enfin, il y a un réel propos qui est de suivre les joueurs et de s'adapter à ce que eux font, et non pas de proposer aux joueurs de découvrir un chemin linéaire qui a été tracé pour eux. Forcément, les inconvénients qui sont pendants, c'est pas une campagne qui va convenir à tout le monde, et là je parle surtout des gardiens. C'est une campagne qui demande un minimum de préparation entre chaque scénario, mais attention, pas une préparation extrêmement importante. À partir du moment où on a lu le livre 2 fois, on a en tête les différents outils qui peuvent être utilisés, et ils sont rédigés pour être exploitables même pendant le jeu, les références sont assez évidentes. Donc, pour revenir, c'est une campagne qui, bien sûr, va correspondre aux gardiens qui ont quand même envie un petit peu de mouiller le maillot, de suivre leur campagne et ce que font leurs joueurs, de s'intéresser à ce qui peut se passer derrière, et qui demandent naturellement un peu de talent d'improvisation. et ou de prise de notes. Voilà. Avec des joueurs créatifs, je pense qu'il y a moyen d'atteindre vraiment des sommets de plaisir de jeu. Je vous laisse la parole.
Réveillez-vous, c'est l'heure.
Désolé. Alors là, moi, tant que je suis chaud là par rapport à utiliser prise de notes et tout ça, je dirais que le piège qui doit pouvoir, où on peut en tant que MJ peut-être se faire un petit peu avoir, c'est que justement, comme on n'a rien d'écrit, rien de... enfin, voilà, rien de prédéfini, qu'on est un petit peu dans... Ben, enfin, pas dans l'invention, mais dans... enfin, on...
Dans le bac à sable, quoi.
Ouais, on fait un petit peu dans... un petit peu dans le bac à sable. Est-ce que, vu que les joueurs, eux, prennent des notes, est-ce qu'enfin, il est quand même assez important, côté MJ, de prendre des notes et de pas se laisser... trop divaguer son imagination et finalement se retrouver piégé par les notes des joueurs. Est-ce que, enfin, je sais pas si je me suis bien exprimé, mais est-ce que ça pourrait pas être un piège justement
que les joueurs finalement, en prenant beaucoup de notes, puissent te piéger en disant mais attends, il y avait une référence la dernière fois.
Vu qu'on n'a pas de ligne directrice et que la ligne directrice elle se fait au fur et à mesure, quoi, donc. Alors, faut bien se souvenir de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on a fait, quoi. Mais est-ce que finalement, on peut pas se faire piéger au bout d'un moment, quoi?
Alors, la campagne aborde cette problématique, notamment de manière écrite, dans le sens où elle incite à rebondir sur les erreurs qu'on pourrait faire. C'est-à-dire que si maintenant, admettons, t'as pas pris tes notes correctement, ou pendant entre deux sessions de jeu, t'as pas relu les notes de tes joueurs, ce qui peut être une manière intéressante de prendre des notes. Il te propose de dépasser ça. C'est-à-dire, voilà, tu dis quelque chose, tout d'un coup, tu dis une bourde, tu te trompes de prénom, les joueurs vont te cueillir. Ah, mais attends, elle s'appelait pas comme ça, elle s'appelait pas Brooke, elle s'appelait Shelly. Tu rebondis dessus, et ben, non, elle te confirme qu'elle s'appelle Brooke. Et là, pof, tu sors l'idée d'un sosie maléfique, d'une anomalie temporelle, et justement, l'idée, c'est de rebondir dessus.
Ok.
Après, ça peut être le charme de justement de masteriser de cette manière-là, quoi. D'essayer de rebondir sur ce genre de choses, quoi.
Oui, clairement.
Tu t'attends à ce que j'aille pas forcément dans ton sens, des sprites.
J'attends ça.
Déjà, est-ce que tu peux jouer si t'es fatigué?
Tu parles du meneur de jeu?
Ouais. Imaginons, voilà, t'as prévu une séance. Voilà, t'as eu ta journée de boulot, t'as ta semaine de boulot, t'es claqué, est-ce que tu t'annules ou tu peux jouer quand même? Parce que moi je sais qu'il y a des parties où je me repose beaucoup sur le scénar parce que bah, tu peux jamais être au top à chaque fois, quoi. J'ai l'impression qu'il faut quand même être au top, quoi.
Bah, faut être vif. Alors... Là, faut être assez vif, quoi, sur, ouais. Vu qu'on est un peu dans l'impro, quoi. Donc, enfin, une sorte de mélange d'impro, quoi. Donc, d'impro et d'écrit, quoi. Donc, faut quand même pas être, faut être un peu reposé, quoi. Enfin,
Qu'est-ce que t'en penses, Desparet?
Si tu veux tenir la ligne, comme sur les autres séances où t'es pas fatigué, tu risques fort de te gaufrer. Le retour qu'on en a fait, c'est effectivement le cas. C'est si t'es fatigué, pas vif, tu te plantes. Je pense que la meilleure solution dans ce cas-là, c'est de prévoir à l'avance des parties de jeu qui peuvent être un peu plus linéaires et auxquelles on aura pensé bien en amont, du type, voilà, jouons une scène de flashback à telle et telle époque, et là on part sur un scénario tout à fait linéaire et calme.
D'accord.
Et justement, c'est pour briser le rythme et rajouter encore plus de chaos dans cette structure.
Je dois quand même demander énormément de boulot.
En fait,
seulement le garde-foi, je suis vraiment très, très bien connaître l'ensemble des parties, des jeux, des personnages. Moi, ça me prend assez.
Sergi, moi, j'ai du mal, là, j'entends pas.
Ah, je croyais que c'était que moi. Vous étiez un peu coupé, vous aussi?
Oui, un peu, mais j'ai quand même compris l'essence de ce que je.
Vas-y, alors, des sprites.
Je pense que encore une fois, il faut pratiquer le lâcher prise. Et plutôt que d'essayer de tout maîtriser en connaissant tous les paramètres et tous les personnages, je pense qu'il faut mieux se baser sur ses souvenirs et deux sur son inspiration du moment. Ne pas hésiter à brouiller les pistes, à rebondir sur des trucs qui se sont déjà passés ou carrément à couper court à une piste qui semblait crédible. Je pense qu'il faut vraiment plus avoir confiance en soi qu'avoir une bonne mémoire.
Ouais, c'est d'accord. Vrai. Moi, je dirais qu'on est sur de l'impro assisté, quoi.
Ouais.
Juste pour avoir une idée, les lieux qui sont décrits, c'est partout dans le monde ?
Ça se situe principalement au niveau de la Nouvelle-Angleterre, mais on a des références type Kingsport, voilà, c'est des lieux qui sont plutôt impersonnels et qui peuvent être casés n'importe où, du type club privé, ville de campagne, ville côtière, sanatorium, club classe, observatoire, etc.
D'accord. Fox, une remarque ?
Ouais, j'en ai une. Bon, tu l'as pas fait jouer, mais on t'a dit que pendant un an et demi, à quel rythme aussi? Une partie par semaine, une partie par mois? Parce que j'ai du mal à imaginer quand même que tu tournes pas en rond au bout d'un certain temps.
Alors c'était une partie par semaine.
Quand même. Quand même.
Ah ouais. Parce
que Ouais, vas-y.
Et juste pour rajouter...
Je suis assez par rapport à ça.
C'est MJ que je connais bien, qui n'est pas un monstre d'improvisation. Il se débrouille, mais c'est pas son point fort premier.
Et pourquoi il a voulu jouer cette campagne?
Il a été séduit par l'aspect modulaire et le fait de pouvoir faire tourner quelque chose autour du groupe de joueurs et de construire quelque chose avec eux.
C'est ça que je trouve un peu dérangeant, c'est que j'ai l'impression que l'intérêt de ce format-là vient d'une espèce de frustration des scénars classiques. Et c'est toujours ce qui m'a étonné un peu dans les gens qui veulent inverser le dé, mettre les joueurs à la place du MJ, retourner l'écran, mettre les chaises à l'envers, enfin essayer de retourner notre média. J'ai jamais moi ressenti, alors peut-être que mes joueurs ils sont super sympas, ils m'en ont jamais parlé, mais c'est un peu comme j'imagine que c'est les gens qui aiment comme toi ce genre de choses là. C'est un peu des gens qui peuvent pas aller voir Indiana Jones, quoi. Parce que on sait qu'il s'en sortira. Donc, c'est quoi l'intérêt? Tu vois, on va pas avoir James Bond parce que on peut avoir des twists, mais on sait ce qui va se passer. Pour moi, le côté prévisible n'empêche pas la créativité des joueurs.
Mais tu peux pas faire une intrigue, dans laquelle on parle de paradoxes spatio-temporels. Si tu veux rester cohérent en gardant une trame purement linéaire, c'est inadapté.
Ouais, mais
sans aller forcément sur un truc ultra linéaire, tu peux avoir une trame et justement bouger les joueurs, mais toi tu restes sur un truc qui est à peu près fixé, quoi.
Enfin, l'idée qu'il y a derrière ce que tu nous as expliqué, hein, parce que c'est quand même, il y a aussi un effort de compréhension à faire vu que c'est pas quelque chose de courant. C'est finalement de se dire, il y a une espèce de maillage d'objets, de personnes, de lieux, et tu mets tes joueurs au milieu et tu les laisses, je dirais, suivre en fonction le maillage. C'est-à-dire que dans un lieu, ils vont entendre parler d'un objet, ils iront voir l'objet qui va peut-être les ramener sur un PNJ qui leur parlera d'un autre lieu. C'est un peu ça l'idée.
Oui, mais en s'imaginant que chaque objet, chaque entité, chaque lieu soit lié à d'autres entités par des câbles. Et donc dès que les joueurs se mettent à bouger, ils font tomber des choses, ils entraînent des réactions en chaîne, et c'est comme ça que ça se passe autour. C'est pas statique.
Tu veux dire des choses qui se passent sans qu'ils soient là ou...
Oui, tout à fait. Oui, il y a des choses qui se produisent alors qu'ils s'ils n'interviennent pas ou s'ils interviennent trop tôt ou trop tard. Il y a des personnages qui changent au fur et à mesure de l'intrigue, c'est prévu.
Mais justement, ça, c'est pas un point faible, c'est-à-dire que, à part le gardien qui s'en rend réellement compte, les joueurs, ils sont pas un peu dans l'expectative par rapport à ça. En gros, le gardien voit une scène, des scènes se dérouler en arrière-plan, sans que les autres le mesurent réellement.
Ouais.
Ce qui est encore une fois le point fort, c'est que le MJ garde toute latitude. Pour accepter ou non ce qui se passe en coulisses. Donc, si quelque chose l'ennuie, il peut le balayer. Je sais pas si je réponds à ta question.
Ouais, et moi, en réalité, ça me lève une grosse ambiguïté sur cette façon de faire, c'est que, je dirais, contrairement à ce que tu dis, pour moi, c'est pas forcément besoin d'être un bon MJ d'improvisation, parce que autant dans un scénario, je dirais un peu plus linéaire, tu dois te fier à une ligne, t'as des guides, donc l'improvisation, il va falloir la recadrer. Tu peux faire des choses, tout le monde en a fait dans toutes les parties, mais il faut que tu reviennes. Alors que là, tu fais ce que tu veux. L'exemple que tu donnais, finalement, pour moi, il dessert. C'est-à-dire, elle s'appelait Morissette. Non, elle s'appelait Roberta. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dessous. Enfin, pour moi, c'est on donne des clés on donne des clés pour expliquer les erreurs ou les flottements. J'ai un peu l'impression, tu vois. Et puis de se dire, c'est ça qui me gêne un peu, c'est de se dire on se repose beaucoup sur les joueurs. Et à moins que ton groupe soit vraiment homogène, mais imaginons que t'es un joueur qui soit un peu passif, il va se faire chier, quoi. Est-ce qu'il va pas suivre? Est-ce que si t'as un gros leader qui est à fond sur ce type-là, est-ce qu'il va pas prendre la main à chaque fois?
On m'a décrit le fonctionnement du groupe de la campagne en question, et il y avait une joueuse qui passait beaucoup de temps à écouter ce qui se passait, qui n'était pas super active. Et elle avait toujours dit que ça lui convenait et que elle ce qu'elle aimait, c'était essayer de comprendre et tout ça. Enfin bon. La campagne permet facilement, très facilement, de solliciter les joueurs qui ne font rien. Et le retour qui m'en a été fait, c'est que cette personne, enfin cette joueuse, comme les autres personnages à table, a eu vraiment eu ces moments forts. Dans le groupe en question, en tout cas, personne n'a lâché l'affaire. Et visiblement, même s'il y avait des joueurs qui étaient plus flamboyants que d'autres, il n'y a pas eu de retour à ce niveau, tu vois.
D'accord. Ce qu'il y a, c'est qu'en quelque part, les joueurs, faut pas qu'ils sachent qu'ils sont dans un scénario un petit peu, un peu linéaire, enfin que leurs agissements, pardon, interfèrent sur le monde, quoi. Faut pas qu'ils soient au courant de cette partie-là de la campagne, quoi.
Pourquoi?
Ah ben ouais, parce que je trouve moi
c'est un
je
peu comme dans le vrai monde, en fait.
Oui,
tes agissements ont des conséquences.
Ouais, d'accord, mais bon, de savoir qu'il y a pas réellement de on va dire de fil conducteur, enfin qu'il y a pas de il y a pas une réelle intrigue derrière, on est d'accord.
Ah oui, je vois ce que tu veux dire.
Mais moi, des fois,
ça peut induire un flottement chez eux. Enfin, ils peuvent se dire, je sais pas quoi rechercher, donc du coup.
Voilà, mais après, ouais. Parce que moi, par exemple, en tant que joueur, le plaisir que je peux avoir, c'est un petit peu comme quand je regarde un film. C'est de découvrir l'anguille sous roche, quoi. C'est de découvrir le fin mot de l'histoire.
Mais tu vas devoir le faire en temps réel avec le MJ.
Oui, mais il y a pas de réellement fin mot de l'histoire, quoi. Au début de l'histoire, on sait pas ce qui, enfin, le MJ ne sait même pas ce qu'il en est, quoi. Alors, est-ce que le fait, je sais pas si moi, par exemple, si je faisais jouer cette campagne, si je leur dirais qu'elle est comme ça, quoi.
Le fil caché, est construit à plusieurs au fur et à mesure. Et petit à petit, il se dessine quelque chose de cohérent. Par exemple, le gars qui l'a fait jouer m'a dit au bout d'un certain temps, voilà, ben je vais plus m'orienter vers un trip Azathoth. Nyarlathotep sera aussi présent, il y aura quelques interactions, mais globalement, ça sera un trip Azathoth. Et ça, il l'a choisi au bout d'un moment, à force de jouer.
D'accord, on est au bout d'un... Ouais, faut bien que... Ouais,
en réalité, pour... VirtuaSep, pour citer du Desparais dans le texte, le but et le plaisir de cette campagne, ce n'est pas justement de dénouer une intrigue, mais c'est plutôt de la construire et de faire que tout le monde... Putain, je fais du Desparais dans le texte, là.
Ah, c'est beau.
c'est de la construire et finalement de chaque personne insérer ce qu'il souhaiterait y trouver. Alléluia.
Qu'est-ce qui a fait la critique, là? C'est vous, Desparais?
C'est des sprites.
C'est des
sprites. C'est bon.
Alors, non. Non. Si nous sommes petits, surtout, on le noie.
Vous avez vu, on parle jamais ensemble. Nous sommes la même personne.
Le problème de ces choses-là, c'est que moi, je dirais que c'est très intéressant.
Ah non, non, ça, je c'est dis pas du tout que c'est ça, pas intéressant, hein, mais...
Non, non, mais je dis pas ça. Non, mais je dis que c'est très intéressant. Le seul problème, c'est que ces choses-là sont toujours faussées. Parce que comme elles sont nouvelles, comme elles sont assez complexes, elles attirent forcément une élite. Une élite, c'est vrai, une élite de gens qui veulent s'impliquer, que ce soit côté gardien, que ce soit côté joueur. Et je trouve que on les voit forcément dans un prisme. Pour moi, le prisme vont vient, c'est noirceur, c'est-à-dire ça va me faire chier, c'est pour de l'élite branlette rôliste. Par contre, tu as le prisme plutôt des sprites, c'est-à-dire éclairant, c'est-à-dire c'est une nouvelle façon de jouer, une nouvelle expérience. Donc, soyons très honnêtes, je pense qu'il faut donner sa chance au truc. La seule difficulté, je dirais, c'est vraiment d'avoir les joueurs en face qui vont répondre aux sollicitations et qui vont les générer eux-mêmes. Tu vois, on parlait de la maison reste ouverte pendant les travaux. Rien que le premier chapitre, c'est complètement ouvert. C'est-à-dire qu'on va pas te guider sur des pistes. Par contre, c'est clair, t'as une trame. C'est-à-dire que tu sais où faut que t'amènes les joueurs. Et ce qui est assez étonnant, c'est que beaucoup de gens, finalement, ne vont exprimer leur créativité ou ne vont laisser les joueurs exprimer leur créativité que dans un système différent du jeu de rôle classique. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on peut tout à fait le faire dans un jeu de rôle classique. On sait qu'on arrivera à un endroit. Le seul truc, c'est que voilà, c'est que le gardien, il a lu que au bout d'un moment, ils arriveront à cet endroit-là. Et la différence, c'est que dans ce que tu décris des sprites, on sait pas où on va arriver. Encore que, je pense qu'il y a le but, c'est quand même de défaire l'affaire Armitage. Qu'est-ce qui lui est arrivé? D'où viennent ces lettres du futur et tout ça? Non, c'est il y a quand même un but.
Il y a une fin, quoi.
Voilà, il y a une fin.
Oui, il y a une fin, c'est d'empêcher, enfin déjà de comprendre qu'il y a vraiment un problème, qu'il y a vraiment, le monde est au bord de l'apocalypse, que ça va venir des grands anciens, et de l'empêcher.
Alors, voilà, c'est ça qui est assez marrant, c'est que c'est hyper classique.
Ouais.
Oui.
Mais vas-y, Fox.
Moi, en fait, ça me rappelle certaines séries télé que tu regardes épisode par épisode, des fois un peu t'es pris dedans parce que tu trouves ça extraordinaire, et quand tu regardes l'ensemble, tu retrouves un truc assez mal ficelé. Alors, oui. Je m'explique, c'est-à-dire que chacun construit son truc. Alors, je comprends que les gens, ils peuvent avoir une certaine synergie, un amusement, parce que tout le monde a l'impression de construire la campagne, machin, je vais rajouter ce petit truc, tiens, hop, je vais mettre un petit coup d'azatote. Ah, puis merde, elle s'appelle pas Mireille, elle s'appelle Juliette. Mais attention, c'est normal. Et en fait, quand tu regardes à la fin dans le truc en ensemble, ça fait un truc un peu château branlant, qui a pas obligatoirement de la cohérence si ça n'a pas été travaillé. Alors attention, un hein, super gardien et super joueur peuvent peut-être y arriver, mais alors là, ça demande, à mon avis, un travail énorme. Et quand t'arrives à la fin, en plus c'est l'impression que ça allait me donner, ça me fait penser à Lost, tu vois, où à la fin tu sais pas quand ça va se finir, et puis bon il faut bien finir à un moment, et puis voilà tu dis bah en fait, ouais bah il y a des grands anciens, ils vont détruire le monde, il faut essayer de l'empêcher. Ah ok, ouais d'accord, tout ça pour ça.
Le côté peut-être des pistes que, comme tout à fait l'analogie avec Lost, des pistes que certains joueurs ont fait monter, et finalement, comme elles n'ont pas été poursuivies du fait de la synergie de la partie, on va les laisser de côté, et on va se dire, bah, c'est vrai, tiens, au fait, on était parti là-dessus, on a jamais su pourquoi cet objet était tellement intéressant, ou des choses comme ça, donc qu'est-ce que t'en penses des sprites?
Je pense que cette campagne a effectivement un potentiel de flop en termes de cohérence, comme Lost, où finalement les scénaristes se sont un peu marchés sur les pieds et n'ont pas réussi à renouer les éléments à la fin. Je pense vraiment que dans cette campagne, on peut vraiment aboutir à un échec, à quelque chose qui soit pas satisfaisant, à perdre pied. Ouais, je suis d'accord. Et là, c'est un risque qu'on prend. On peut pas être épargné de tomber là-dedans. Par contre, je pense encore que si une campagne, comment dire, je pense que cette campagne est respectueuse d'un principe essentiel à une table de JDR, c'est l'alchimie humaine. Et j'insiste encore là-dessus, quand on est dans une linéarité des événements qui est prévue à l'avance, notamment, je pense, je reprends l'exemple que j'avais donné la dernière fois avec les montagnes hallucinées. Qu'est-ce qui se passe quand les joueurs arrivent sur la banquise, mais l'un d'entre eux a envie de faire un coup d'état et de faire un deuxième camp un peu plus loin? Ben, avec une campagne classique, c'est pas possible. Et donc on va essayer gentiment de repousser les joueurs dans les cordes, ou bien d'aller un peu dans leur sens, et puis après de voir une campagne qui s'essouffle. Ce que j'apprécie avec Hermitage, ou du moins avec ce modèle de campagne, c'est que on peut continuer à proposer un jeu riche et intéressant en respectant vraiment ce que les joueurs veulent faire. C'est-à-dire, il s'agit pas juste de changer un nom et puis de le recoller 2 heures plus tard, mais vraiment de se dire bon, ok, ils veulent pas aller enquêter sur les larmes d'Azathoth dans la secte de l'Aube Dorée, ils veulent plutôt aller voir Rodger, le flic véreux. Et ben ok, on y va. Et puis j'ai de la matière à leur proposer, j'ai du ressort, on peut rebondir. Et quand les joueurs à table vont dire ah, mais si ça se trouve, le mec. Bah c'était son frère jumeau. Mais là, tu peux rebondir vraiment dessus.
Alors.
Et construire sur leurs suppositions.
Des sprites, je vais te dire un truc. Vas-y, suis-moi, faut que je suis coupé.
Et justement, je pense que c'est ça qui est un peu trop poussé à l'excès. Je pense que ce soit qu'on prenne les montagnes ou Hermitage, on est dans 2 excès. Et je trouve que ce qu'il y a de bon, c'est toujours au milieu. Hein. D'ailleurs, c'est souvent ça. Dans beaucoup de choses.
Alors.
Et je suis sûr que des gens peuvent vraiment prendre leurs pieds, tant mieux, hein, parce que c'est le but quand même du jeu de rôle. Et si tu regardes ce truc avec un peu de recul, toi tu peux être un peu plus dubitatif. Hein. Alors je pense qu'il faut que ce genre de campagne, il faut la monnaie au bon moment, avec les bons et bonnes personnes, au moment où t'en as envie. Mais pour en faire vraiment quelque chose de qualité, je pense qu'il y a un travail bien énorme que de la simple impro et de la facilité d'accès telle que tu l'as peut-être présenté au départ.
Alors. Moi, j'ai une question des sprites, en toute honnêteté intellectuelle. Imaginons, je prépare une campagne, d'accord? J'ai des lieux. New York, un petit club au fond de New York, noir, avec des mecs un peu bizarres. J'ai une maison plutôt type anglaise, avec une belle famille et tout, assez riche. J'ai un petit village au fin fond de l'Afrique. J'ai des gangs, et puis des fumeries, dans une... contrée plutôt asiatique, je te mets des ouvrages, des ghouls, Liberi Venice, le Necronomicon, des choses comme ça, je te mets des objets, une momie, des couteaux, un peu de sacrifice, des statues, une montagne, des choses comme ça, je te mets des personnages, tu vois, genre un playboy dans une expédition, avec une nana un peu qui le manipule, je te mets un professeur qui est un peu perdu en Australie, qui fait des conférences, tu vois. Imaginons, je te mets tout ça ensemble, je te lance dans l'aventure en disant, voilà, on commence, on est à New York, dans les années 20, il y a un ami qui vous a appelé à son chevet, et il a quelque chose dont il veut vous parler, et ben ça se passe, chambre 410, dans l'hôtel Chelsea. Franchement, je te présente ce que je viens de te dire, donc la campagne des masques de Narathotep, et je te dis une campagne de type super ouvert, où vous faites ce que vous voulez, est-ce que tu te ferais pas avoir? Et est-ce que tu ne te créerais pas cette liberté d'action parce que je t'ai dit que c'était ouvert? Tu vois ce que je veux dire?
C'est beau, ouais. Ça. Ouais, bah écoute...
c'est... Très honnêtement, je te dis pas que c'est écrit, je te dis voilà, c'est un nouveau concept. C'est complètement ouvert, j'ai des personnages, des lieux, des objets, des livres. Tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant, que je mettrai une bonne note à ta campagne, mais que j'ai envie d'enlever le vernis... On brise tous les tabous et on change tout.
Pour moi, c'est vraiment pas sous cet angle. C'est quand je parle de quelque chose de nouveau, je parle pas. Il s'agit pas d'une médaille pour les joueurs qui y jouent, tu vois. Il s'agit pas non plus d'une médaille pour les MJ qui le font. D'ailleurs, je connais très 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 peu de MJ qui ont fait jouer cette campagne. Et de toute manière, quand tu l'as fait jouer. Les joueurs ne sont pas censés savoir quelle est la structure du livre derrière, sauf si le MJ leur dit. Il s'agit pas de jouer à la campagne Hermitage pour dire ouais j'ai fait un truc super nouveau et tout ça. Ça c'est un plan de poseur. Je pense qu'il peut y en avoir, mais je pense que ça ne présente pas vraiment d'intérêt.
Ouais, mais c'est justement pour préciser que tout à l'heure, moi je trouve que c'est important que les joueurs ne sachent pas.
Ne sachent pas. Je suis d'accord avec Bertrand
Seb.
D'accord,
oui. Ouais, pour moi, faut pas qu'il sache ça, parce que ça perd un petit peu l'intérêt de découvrir l'anguille sous roche, quoi, de se dire que finalement c'est le MJ qui invente au fur et à mesure. fait que ben ouais, il n'y avait pas réellement une vraie intrigue, quoi.
Est-ce que tu
Et qu'elle s'est inventée, moi je pense qu'il faut pas le savoir.
est-ce que tu sais si le maître il l'avait présenté, le maître avec qui t'en as parlé, comment il l'avait présenté à ses joueurs, tu sais ou pas?
Non, pas dans le détail.
D'accord.
Il me semble pas qu'il leur avait dit
Moi
qu'il
je
leur avait
pense
parlé de ces éléments.
moi je pense moi pour moi ça serait une erreur de le faire, quoi.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Je pense qu'il faut pas qu'ils sachent. Et là, oui, là, pourquoi moi, j'achète. S'ils savent que le monde est modulé un petit peu par rapport à ce qu'ils font et que c'est finalement un petit peu d'impro, et aussi pas mal d'impro, ouais, parce que moi, je sais qu'en tant que joueur, j'ai un petit peu ce plaisir-là, quoi, d'aller, enfin, découvrir le poteau rose, quoi, donc.
Pour moi, la présentation que tu fais, au-delà d'une nouvelle façon de jouer, je dis pas que c'est ça que tu dis, hein, c'est ça que tu défends, mais je dirais que c'est plutôt une nouvelle façon de présenter une campagne.
Ouais, entièrement
Ah,
d'accord. Ouais.
C'est de se dire voilà, faut lire les trucs les uns après les autres. Et puis c'est chiant parce que voilà, ils sont censés aller à Shanghai après être allés à Nairobi et tout ça.
Je grossirais même, hein, c'est une structure qu'on avait dès le début des jeux de rôle, hein. On décrivait des pièces, on décrivait des monstres, et puis on décrivait des trésors, hein, donc.
Oui,
pas mal, pas mal, c'est pas faux ça.
sauf qu'on avait l'agencement sur le papier, qu'on savait que ce couloir menait à cette pièce.
Ouais, on a tous retourné le plan, quoi.
Oui, puis même, on s'est tous retrouvés avec la soirée qu'on a super bien bossée, et puis que nos joueurs ont résolu en 5 minutes, quoi.
Et ça, là, Sergi, je trouve que tu lèves aussi un truc. Alors c'est pas un défaut, mais c'est aussi le fait que tu peux te faire cueillir par tes joueurs, quoi. C'est-à-dire que ce que t'as préparé, comme tu sais pas trop par où ils vont y arriver, ils peuvent y arriver super vite.
Mais justement, l'idée, c'est de ne pas préparer.
Ouais.
C'est de ne pas se dire, ah, maintenant, ils vont arriver dans l'asile où les fous ont pris le pouvoir, voilà. Non, c'est
Ouais,
simplement de le
mais.
découvrir pendant qu'ils rentrent dans l'asile. Au bout d'un moment, il va y avoir une interaction étrange et tout d'un coup, les joueurs vont dire, bon, bah, je vais essayer de me trouver une arme. Et là, tu essaies de comprendre pourquoi est-ce qu'ils veulent trouver une arme et tu dis, ok, ils soupçonnent que le personnel de l'asile, sont peut-être des fous. Et ça te donne un ressort sur lequel tu peux t'appuyer. T'es pas obligé de le faire, mais tu
D'accord.
construis la chose de manière dynamique.
Est-ce que c'est pas déjà le but d'un MJ? C'est-à-dire que, quel que soit, enfin, mon sens, quel que soit le jeu de rôle, le jeu est là aussi au
Mais
service des joueurs.
alors
Donc,
là, je...
effectivement, s'ils partent, tu parlais des campagnes, s'ils décident de partir à droite alors qu'il faut aller à gauche, ben, soit on fait un gros mur et puis on frustre nos joueurs. On part dans leur délire et puis on essaie de les ramener inconsciemment, plus ou moins avec facilité
Voilà.
sur les rails.
Sauf qu'avec une structure classique, tu dois remuer la moitié du monde au pied de biche pour que ça cadre à ce qu'ils font, alors que avec la campagne Hermitage, tu fais ce que tu fais à toutes les autres séances.
Ouais. Alors, moi, ce que j'ai un peu l'impression, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est une analyse von-vienne. Mais le truc, c'est que les Américains, enfin, c'est quand même des mecs, gloire leur soit rendue, on leur a dit, vous allez sauver des types qui habitent dans un pays que vous connaissez pas, il fera froid, ils sont cons, ils bouffent des camemberts, vous allez tous mourir, on leur a dit ça, mais c'est pour sauver la liberté, allons-y. C'est des bœufs. C'est-à-dire qu'en réalité, j'ai l'impression que si on jouait avec des maîtres, des gardiens américains, on serait super déçus. Je sais pas si vous avez déjà vu des podcasts de gardiens américains, mais ils sont hyper linéaires. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même des bœufs qui ont joué à Donjons et Dragons pendant des années et des années. Le plus gros succès de l'Appel de Toulouse, ça n'a pas été en Amérique, ça a été en France. J'ai un peu l'impression que l'espèce de découverte qu'ils font en ce moment de se dire, mais au fait, on peut carrément tout improviser, tout faire péter. Pas qu'on le faisait tous les jours, mais j'ai un peu l'impression que c'est quelque chose que nous, Frenchies, un peu, tu sais, rebelles, frondeurs et tout, on faisait
Feignant.
déjà. Et feignants, on faisait déjà. Je sais pas si mon analyse est toute pourrie ou.
Moi,
Ouais, je suis assez d'accord avec
ouais.
toi. Bon, parce que moi, je l'ai repris là pour le survoler en même temps que Best faisait la description. Et l'impression que je me suis dit, c'est que pour faire ça, j'ai pas besoin. En fait, j'ai pas besoin d'un bouquin comme ça qui m'explique en fonction des PNJ qui existent, comment ils vont se comporter, s'ils sont gentils, méchants ou ils ne font pas peur. J'ai l'impression que j'en suis capable par moi-même. Alors, c'est là que je prendrai la défense de cette campagne et où je rejoins ce que tu as dit, Desp, au départ. C'est-à-dire pour quelqu'un qui n'a pas trop l'impression d'improviser, qui cherche effectivement à avoir un peu d'outils pour créer en fait sa propre campagne. En fait, c'est un outil pour créer sa propre campagne. C'est peut-être là où en fait est sa force. Et là aussi, je te rejoins, Von, c'est que c'est peut-être une manière, lorsque cette campagne a été créée, de casser des codes, en fait, que des gens qui ont plus d'expérience le font par eux-mêmes en construisant leur propre campagne. Et c'est ce que tu fais quand tu construis ta campagne, tu l'adaptes clairement à tes joueurs, à la manière dont ils vont le faire, tu vas l'écrire au fur et à mesure, etc. C'est l'impression que ça te donne, Desperate ?
Oui, oui, je te suis.
Ça la rend d'autant plus intéressante. Autant au début de ta description, je me demandais, autant ça la rend d'autant plus intéressante parce que voir un peu comment c'est décrit, comment c'est foutu. Juste pour avoir une idée, donc finalement, quand ils décrivent un objet, ils vont pouvoir dire telle personne l'a lu et hop, on va se diriger vers un PNJ ou alors il a été stocké dans telle bibliothèque et toc, ça peut faire une piste vers un autre lieu. C'est ça un peu l'idée.
Écoute, je vais juste prendre un exemple. On va voir ce que ça donne. Pour un objet, ils te font une description, donc à quoi ça ressemble, quelle est l'histoire de cet objet, et ensuite ils te font plusieurs descriptions, des propositions. Si vous voulez que cet objet soit considéré comme un objet majeur dans la campagne, donc quelque chose de très intéressant, l'équivalent de Necronomicon, voici comment vous pouvez le traiter. Est-ce que c'est un objet mineur? Et dans ce cas-là, voici aussi quels sont les pouvoirs qu'il peut apporter. Et enfin, est-ce que c'est un objet qui est un faux? C'est-à-dire c'est un objet dont on dit qu'il a certains pouvoirs ou certaines propriétés, mais en fait, pas du tout. Et enfin, derrière, on te donne le nombre de références à cet objet dans les aides de jeu. C'est-à-dire combien de fois on va évoquer cet objet au sein des props.
D'accord. Parce que là, il y a un gros intérêt. C'est vrai que par rapport à moi qui suis premier à gueuler quand on me file des scénarios sur TOC où c'est vachement linéaire dans la description, là, c'est vraiment ce qui peut être intéressant comme façon d'écrire un scénario. C'est pas de se dire il se passera ça, puis ça, puis ça, puis ils verront telle chose, puis ça, mais plutôt de se dire... Quand ils auront récupéré cet ouvrage, ça risque de les mener vers ça, vers ça. Quand ils verront cette personne, suivant comment ils lui parlent, elle risque de les emmener vers ça ou vers ça. Donc, ce que tu disais au début, quoi, l'espèce de maillage de pistes, de lieux, d'idées, de personnages et tout ça, et finalement, d'accord.
Ouais, c'est un... D'où le sentiment un peu, je construis ma campagne pour les nuls, quoi. Je sens que ça peut durer.
C'est vrai que je prendrai presque ça le jour où je suis fatigué.
C'est pas faux parce que
je m'en ai plutôt agressif. Bon, allez, hop, PNJ, agressif. Voilà. En fait, moi j'ai presque envie de prendre ça comme étant un immense bac à sable le jour où je suis fatigué.
Et c'est pas faux ce que tu dis, Fox. C'est pas faux ce que tu dis, Fox. C'est que autant, par exemple, quand tu lis les campagnes classiques, genre les masques ou tout ça, on va dire bon bah tel personnage, voilà comment il se comportera. Mais comment il se comportera en ayant présupposé comment les joueurs vont l'attaquer. Comment ils vont se. Alors que là, finalement, on t'offre d'autres possibilités et on te force pas. À le décrire d'une telle ou telle façon. Là, on t'amène sur un plateau les différentes façons par lesquelles il pourrait t'aborder, mais ça reprend tout à fait d'ailleurs le fondement de Trail of Cthulhu, c'est-à-dire que Trail of Cthulhu, tu découvriras forcément les indices. La seule chose, c'est la façon dont tu primeras pour y aller. Mais tu es dans la bonne pièce au bon moment et tu cherches au bon endroit, tu trouveras l'indice. C'est le challenge. C'est pas de réussir son G, je pense que c'est une campagne où on doit faire assez peu de jet de dés finalement. C'est pas l'intérêt. Oui. Finalement, c'est plutôt de se dire est-ce que ça me fait un peu penser au labyrinthe quoi, où il y a plusieurs fins, plusieurs trucs sans issue. C'est de se dire je suis rentré dans le labyrinthe, j'agence les pièces, Mais finalement, il y a que quelques agencements qui permettent d'arriver jusqu'au bout. Et c'est là où je me demande, est-ce que, ouais, non, tu me diras, tu peux toujours retomber sur tes pieds parce qu'il n'y a pas forcément de sens d'issue dans ce cadre-là, quoi.
Comme tu dis, le film, tu vois.
Voilà, exactement. Il y a mais toujours une sortie.
Ouais. Centré sur les joueurs et pas aux mains d'un fou psychopathe.
Et ce qui est assez marrant, c'est que derrière des semblants novateurs, ça décuple les travers du jeu de rôle. C'est-à-dire que là, t'es complètement mégalomane. C'est même un concours de mégalomanie, quoi. Qui déformera le monde le plus à sa façon gagnera, quoi. Quelque part, d'accord. C'est intéressant parce que je savais pas du tout que cette campagne-là a été montée comme ça. Je me doutais pas du tout. Moi, je pensais que l'affaire Armitage, c'était une affaire Armitage qui où il fallait mener une enquête toute bête. Je me serais fait avoir. Bon, messieurs, d'autres questions? D'autres remarques? Il faut avouer que à la décharge de Steve, il s'attaque à un gros morceau. Et c'était pas gagné.
Non, non, mais là, on a discuté autour, et enfin, moi, ça me... Moi, vraiment, le point auquel j'appuierais, quoi, c'est vraiment qu'il sache pas au départ que c'est comme ça, quoi. Parce que moi, elle me fait penser un petit peu à comment je faisais mes scénarios jadis, quand j'avais pas de sous pour m'acheter moult ouvrages avec... Et que en fait, mais moi je me faisais, je prenais très très peu de notes. Je me disais, ben voilà, ça c'est le grand méchant qui va être introduit. Enfin, ils vont être amenés dans l'aventure comme ça. Et puis après, ben moi j'improvisais suivant. Moi je m'étais fait une petite, vraiment une trame très très légère. Et après je modulais vraiment sur ce qu'ils faisaient, quoi. Après je faisais de l'impro totale. Pour qu'ils arrivent à la fin, quoi. Mmh. Et là j'ai un petit peu l'impression que c'est un petit peu la même chose. Pour moi c'est vraiment, pour faire très simple, en quelques mots, on est sur de l'impro aidée ou sur de l'impro assistée, quoi. Mmh.
De l'impro préparée, quoi.
Ouais voilà, ouais. Mmh. Avec des aides, quoi, en tout du moins. Pour te donner de l'idée, soit de l'inspiration, soit de donner une direction.
Ouais, très juste.
Mais et vraiment, moi, dans mon idée à moi, s'il y a vraiment quelque chose que les joueurs ne doivent pas savoir, c'est que c'est comme ça, quoi. Moi, en tant que joueur, ça me gâcherait le plaisir, quoi. Mais après,
surtout, je suis pas sûr qu'à la fin. Ça s'est bien passé, les joueurs seraient capables de dire que c'était c'était l'habitude de bien broder, ils sauront pas forcément te dire que c'était une campagne différente des autres.
Ouais, voilà, c'est
d'habitude, ouais. D'habitude ça se passe bien, et s'ils ont l'impression que tu les mènes pas trop en bateau, finalement c'est un très bon test pour un gardien, c'est de se dire, si je leur file cette campagne dans les potes, est-ce qu'ils vont me dire, ah putain, maintenant on veut faire que ça, c'était génial. Là tu te dis, putain, tout ce que je leur ai fait avant, ils ont pas aimé. Par contre, s'ils disent, ah putain, elle était top, on a retrouvé un peu ce qu'on avait fait sur les montagnes, ça serait dur quand même. Mais mettons, je sais pas, sur une campagne plus ouverte.
Dis-le,
allez. Sur l'Orient Express, vas-y, balance.
Il
que vous m'inviterez, hein, ce jour-là.
C'est un bon test. Bon, ben messieurs, s'il n'y a pas d'autres remarques, tout ça, c'est good pour vous. Donc, on va faire un petit tour de table. Monsieur Fox, quelle note pour ce...
Alors, je suis assez partagé. Pourquoi? Parce que j'aurais tendance à dire, soit j'achète une campagne pour mettre et pour l'avoir de A à Z et puis pas trop me prendre la tête, soit je préfère l'écrire par moi-même. Donc, mais en même temps, je salue le travail qui permet à un gardien d'être accompagné dans ses travaux d'impro. Allez, donc je lui mettrai entre 2,5 et 3.
Sergi Sang?
En fait, je suis comme Fox, je suis un peu partagé parce que j'ai moyen d'avoir quelque chose de sympa. Mais en fait, mis à part le cadre, j'ai presque envie de dire what else, quoi. Et non, sérieusement, je suis pas un jeu exemplaire. Je prépare pas mes scénars. C'est préparé à la va-vite le midi pour le soir pendant ma pause. Donc en fait, j'improvise déjà énormément.
Mais c'est fait pour... c'est fait pour toi, alors.
Ah oui, non, quelque ouais, part.
Justement, en fait, ouais. Le jour où je suis fatigué, je pense que je prendrai ce genre de choses. Et puis, j'ai envie de faire un donjon aléatoire à la D&D. Donc, je suis pas super emballé. Moi, je mettrais peut-être deux. Parce qu'il y a peut-être moyen d'avoir pas mal d'idées. Mais je pense que derrière, il y a tellement de boulot que faut réécrire entièrement. Pas mal, quoi.
Virtua 7 de ton côté?
Je serais hésité entre dire entre 3 et 4. 3 parce que c'est pas une réelle écriture. Enfin c'est pas un scénario défini. Je pense que pour vous donner une vraie note quoi, faudrait que je le lise quoi. Là comme ça j'ai vraiment du mal à me prononcer sur une note quoi. Finalement.
D'accord.
Alors moi de vraiment que lire et savoir vraiment voir ce qui
comment c'est foutu
ouais. Comment c'est foutu ouais. Pour vraiment donner une note.
Moi de mon côté, en tant que gardien, je donnerais 2 parce que autant j'improvise mais j'improvise autour d'une ligne, j'aurais du mal je pense. Donc vraiment, c'est vraiment dans le doute que je mettrais 2. Par contre, en tant que joueur, je serais très intéressé. En tant que joueur, je pense que je mettrais 4, parce que avec une bonne équipe, je voudrais voir ce qu'on peut faire. Et c'est vrai que...
Et ouais, mais tu serais joueur, tu serais pas calé comme ça. Moi, pour moi, l'intérêt, c'est qu'il faut pas savoir calé comme ça.
Ah oui, non, mais sans le savoir. Voir, c'est vraiment, c'est la jouer pour la jouer, voir ce que ça peut donner... Et par contre, voilà, on est tous d'accord que ça sous-tend un gardien qui a quand même les épaules, et puis des joueurs qui sont prêts à tous converger dans le même sens et à être moteurs, quoi. Mais en tant que joueur, ouais, 4, parce que ça m'intrigue de savoir finalement de cette espèce de confrontation de ses propres capacités et les capacités de son équipe à confronter aux capacités du gardien pour faire converger tout le monde quoi. Il y a une vraie gestion de groupe je pense de la parole de la façon dont les joueurs évoluent donc pas tellement en tant que gardien mais en tant que joueur ça m'intéresserait. Bon bah dis donc Steve, bien joué, t'as quand même réussi à caser quelque part un petit peu de narrativisme.
Ah vous avez été cool les mecs.
Non mais t'as bien
on essaie de pas trop la...
Non mais t'as bien défendu le truc, et c'est vrai que c'est assez intriguant, je vais regarder.
J'ai un pote qui est en couverture de la campagne, Fabien Savelli, si tu nous écoutes.
C'est vrai?
Mais je t'ai pris en photo pour la couverture.
Ah, c'est pour ça, arrête, tu connais, voilà, c'est backstage ouais, quoi.
J'ai un peu de thunes, tu sais, c'était pour le petit billet.
D'ailleurs, j'ai pas suivi, c'est une campagne officielle de Trail of Cthulhu, ouais. D'accord.
Ah oui, c'était sorti officiellement et tout ça, ouais.
D'accord. Donc c'est un ouvrage payant, tout ça.
Bah disons que c'est... Ouais.
Non, mais je veux dire, c'est pas quelque chose... ce que je voulais souligner, c'est pas quelque chose... Un scénar que... Enfin, une campagne qu'on peut retrouver...
Il faut payer pour ce truc.
Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, je veux dire, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut pas la retrouver sur Tok, quoi.
Il veut plus.
c'est fini ces choses-là. Et puis c'est, enfin. Moi, le seul problème de cette chose-là, c'est con de ma part, mais c'est tout cette hype sous-entendu qui fait que il faut trouver ça à minima étonnant quoi.
Je crois pas que les hipsters du JDR se sont arrêtés dessus, ça demande trop de boulot. Donc en fait.
Tu crois?
Moi, je vois très peu de pubs pour cette campagne. En fait, je trouve presque quasiment personne n'en parle.
Mais très honnêtement, je pense que c'est surtout parce qu'elle s'appelle l'affaire Armitage. Personne, comme disait Virtua Seb, ça la joue bien. C'est que personne se doute que c'est quelque chose de différent d'habitude. pense. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Je pense, hein, parce que si... Moi, là, je avant ce soir, je savais pas du tout si c'était un truc différent d'une campagne classique. L'affaire Armitage, je m'étais dit, bah, c'est une affaire autour de la femme.
Ou alors, elle est pas beaucoup jouée, parce que finalement, quand les MJ ont fini de la lire, bah, ils se disent, non, je suis pas orienté, ici, et finalement, ouais. il la joue pas, quoi.
Je pense que ça doit être déroutant pour pas mal de gens. Et je peux comprendre.
Après, ben voilà, pour revenir à ce que je disais, ça va m'aider peut-être à donner ma note. Je disais, je demandais si c'était quelque chose de payant ou de complètement libre. Mais c'est justement, je trouve ça scandaleux. Ce qu'il y a, c'est qu'on arrive à nous faire payer et à nous faire payer quelque chose qu'on n'a pas été fichu de terminer. Et c'est scandaleux. Et Desperate est en train d'essayer de nous vendre ça. C'est totalement inadmissible.
Par contre, j'avais une question Desperate, mais je pense que je connais la réponse.
Non, il n'y a pas d'adresse.
C'est que c'est impossible à jouer en virtuel.
Bien au contraire. Non, détrompe-toi, c'est tout à fait possible.
Alors là, je vois pas pourquoi, mais.
D'avoir le groupe à distance.
Bah oui, pour les joueurs, ça se présente exactement comme une campagne habituelle. C'est surtout pour le MJ, bah oui, c'est très déroutant.
Ouais. En fait, je regardais pendant que Desprite nous vendait son petit truc. Je regardais
son scénario non terminé.
C'est en France. Et en fait, il y a sur le forum une partie justement, l'affaire Armitage Online. Donc, si, ça se fait en virtuel.
Ah ouais, je pensais que c'était vraiment délicat parce que, enfin, comme c'est très ouvert, il faut le problème du virtuel, c'est que t'as pas les gens en face de toi, donc t'as pas leur réaction tout de suite, quoi. Mais c'est vrai, sinon ça peut être faisable, hein. C'est bien cool pas, je pense.
A priori, ça se fait.
D'accord. Bon, ben messieurs.
Sur le titre du poste, mais.
Ben là, en revanche, je pense qu'il faut que le MJ soit quand même assez expérimenté, par contre, en virtuel, quoi. Pour bien, enfin, qu'il ait bien l'habitude du virtuel pour
bien mener la partie, ouais.
Pour bien mener la partie, ouais. Vu qu'il est tout le temps dans l'impro.
Bon, ben messieurs, là, je crois qu'on a fait le tour. Il est 0h19. Je te remercie, hein, Steve, pour ta défense d'une chose qui n'était pas facile. Et on a fait le tour de pas mal de campagnes bien différentes ce soir finalement. Et puis je pense qu'on a soulevé quand même des campagnes qui étaient fort peu connues encore. Bon, le prochain podcast, je sais pas trop, hein. Il y en a pas mal qui veulent qu'on le fasse sur Terreur sur Orient Express ou sur les masques. Pardon. C'est Terreur sur Orient Express ou sur les montagnes hallucinées.
Non,
ça c'est pas ça. Oui, moi je le mettrai sur le forum, c'est ce que je veux de. Je vais peut-être pas le dire là tout de suite, mais je mettrai sur le forum un petit post spécial dédié sur le prochain podcast.
On s'est promis qu'on allait courir la
pièce.
Il m'en veut, non, mais, putain.
Ce qu'il y a, c'est que Fox, que tu sais pas, Vaughn, ce que tu sais pas, c'est qu'avec Fox, on se voit deux fois par semaine pour te, et à chaque fois qu'on se voit, on te pouille, et on
la
essaie de...
La poupée vaudou.
Ouais.
Ah, putain, c'était ça, alors. Bon, ben, messieurs, je vous remercie beaucoup. Je pense que ces deux podcasts montreront que, l'appel de Toulouse est truffé de... Je dirais de classiques, d'OVNI, que vraiment il y a tout. C'est ça l'intérêt, c'est que autour de ce bon vieux HPL, on peut vraiment jouer à tout, faire de tout, faire du donge. Voilà, exactement. Faire du donge, comme Dweller il est pas là, faire du donge au fin fond des montagnes hallucinées et faire des expériences mythologiques et euphorisantes avec des sprites dans des scénarios totalement ouverts, en passant par des classiques tout à fait standards. Le gros intérêt de ces podcasts, c'est bien de montrer que il y a pléthore de trucs à jouer, et bien sûr il y en a encore d'autres qui arrivent chez Sans Détour. Donc voilà, j'espère que pour les auditeurs ça vous a donné envie de jouer au moins une de ces campagnes. On a dû en faire combien, 8 au total, 8 ou 9 je pense, sachant qu'il y en a encore un paquet. Et puis n'hésitez pas à nous faire vos retours dans les forums, et en plus maintenant l'intérêt c'est que vous avez un pseudo sur les différentes campagnes si vous avez des questions particulières à poser. Ça peut être très intéressant parce que je pense que nous tous qui avons défendu nos campagnes, on est tout à fait prêts à filer des billes si jamais il y a des questions autour de enfin pour des gardiens qui voudraient les maîtriser.
Non, mais en fait, on est mytho, on en a joué aucune.
Je n'ai jamais joué à l'appel de Toulouse.
On les a même pas lus.
Je vais lire un résumé sur Amazon. Donc, messieurs, ben, je vais vous remercier de votre participation active et fort intéressante. Et puis, en fonction de la façon, je remettrai un doodle pour les prochains podcasts. Et puis, d'ici là, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis fin glouille.
Fin glouille à tous.
Grande chasse à tous.
je coupe l'enregistrement.
Today we are canceling the apocalypse!